Je suis Mathieu Stéphanie et j'ai le plaisir de vous présenter Génération Do It Yourself, le podcast qui décortique le succès des personnes qui ont fait le grand saut. Que ce soit des entrepreneurs, des sportifs ou encore des artistes, je vous propose, sous forme d'interviews sans filtre, de rentrer dans leur histoire, dans leur quotidien. Mon objectif est de comprendre leur mode de pensée, leur organisation ou encore leurs outils, et de vous proposer un véritable MBA des échecs et des succès de ces invités. Ce podcast vous est présenté par Cosa Vostra. Cosa Vostra est un cabinet de conseil, un studio qui conçoit et développe vos projets digitaux et une agence de communication et de growth hacking. Avec plus de 30 collaborateurs répartis entre Paris, Londres, Bordeaux et Tunis, Cosa Vostra réveille la start-up qui est en vous. Pour plus d'informations, tapez COSA, VOSTRA, un peu partout sur Internet. Pour soutenir Génération Do It Yourself, merci de vous abonner gratuitement sur votre application podcast, disponible en natif sur tous les iPhone et iPad, sur Deezer ou encore SoundCloud, et surtout à noter et partager autant que vous voudrez. Bonne écoute sur Génération Do It Yourself. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Stéphane Boucris, le directeur général d'Ametix. Salut Stéphane.
Salut Mathieu.
Comment vas-tu? Je peux te demander de te présenter?
Bien sûr. Alors, moi je suis Stéphane Boucris, j'ai 34 ans. Et pour présenter mon parcours, alors j'ai un parcours assez atypique qui a commencé de manière assez conventionnelle puisque j'ai fait un BBA à l'ESSEC, un master à l'ESCP, j'ai fait un bel échange dans la Silicon Valley, j'étais à San Jose State University. Et ensuite, je suis rentré à Paris pour monter une startup qui s'appelait Staff avec deux A et deux F. C'était un nom très compliqué. C'était un nom tellement compliqué que quand on rachètera cette boîte 2 ans plus tard, le type qui m'a racheté la boîte a fait une faute d'orthographe sur le chèque, en fait, pour me racheter le truc, pour montrer à quel point c'était compliqué. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, toutes les boîtes que je montrais, elles ont des noms beaucoup plus simples. Par exemple, si on en parle à un dîner, on peut le retenir facilement. Et donc, voilà. Mais pour en revenir à Staff, donc c'était une place de marché des services à domicile. On est en 2007, en pleine loi CESU. Et l'idée, c'était de mettre en relation offre et demande au même endroit, au même moment. Et c'était très complexe parce que finalement, quand on était à Strasbourg et qu'on voulait un cours de maths, il fallait pas avoir un prof qui était en même temps disponible à Paris, par exemple, ça marchait pas.
D'accord.
Donc, il fallait, voilà, matcher l'offre et la demande au même endroit, au même moment. C'était très compliqué. Et c'est une aventure qui a pas mal marché, mais pas assez pour me faire vivre. Et donc, je l'ai fait vivre pendant 2 ans.
Donc, Staff, tu le crées. Attends, juste reviens là-dessus. Et, mais on pourra même revenir sur avant tout ça, parce que tu parles de l'ESCP, de l'ESSEC, donc différents diplômes. Mais avant tout ça, t'as grandi à Paris, toi ?
J'ai grandi à Paris. Je suis né à Neuilly-sur-Seine, mais j'ai grandi à Paris.
D'accord. Et donc, tu viens parce que t'es très, très entrepreneur. Hein. Parmi les gens que je connais, t'es parmi ceux qui ont monté quand même beaucoup de business en nombre, qui ont eu aussi beaucoup d'idées à la con. Et c'est les trucs dont on va, qui vont bien. Non, mais on y reviendra. Hein. Tu sais pourquoi je dis ça, brillantes idées. Hein. Tu sais que c'est très. Je ne me moque pas. C'est au contraire. C'est pour ça que je me languis de cette discussion et je suis ravi de pouvoir avoir cet échange. Mais donc, background, c'est quoi? C'est d'où ça vient ton truc là de lancer ce truc là?
Rien de particulier, à part peut-être que voilà, j'ai un papa et j'avais un grand-père entrepreneur.
Oui.
Donc, lignée d'entrepreneur.
D'accord.
J'étais dans la communication, la publicité. Donc, j'ai baigné un petit peu là-dedans. Et en fait, c'est vrai que je parle pas tellement et je parle pas souvent de cette partie-là de ma vie, mais j'ai fait un stage, en fait, un stage assez long, chez Warner Bros.
D'accord.
Quand j'avais, je sais pas, une vingtaine d'années. Et Warner Bros, c'est une entreprise qui me faisait rêver depuis toujours, en fait.
Donc, cinéma, hein.
Le cinéma, l'entertainment. J'étais dans les produits dérivés.
D'accord.
Et c'est un stage qui devait durer un an. Tout le monde se battait pour avoir ce stage dans cette entreprise. Je l'avais décroché. Et finalement, je suis parti au bout de 6 mois Pourquoi? Parce que ben, pourtant, c'était l'entreprise de rêve qui vendait des choses de rêve. Et je me suis aperçu que même dans ce cadre-là, ben, c'était pas ce que je souhaitais. Parce que il se passait des choses très bizarres. C'était très rigide. Alors que c'est une entreprise américaine et tout. Mais finalement, un truc qui m'avait marqué, la directrice générale, la country manager de Warner Bros. En France sur cette partie produits dérivés, elle nous avait réunis. Donc, on était une cinquantaine à un moment dans le bureau. Je sais pas, on devait être au mois d'octobre, et elle nous dit, voilà, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, ben, on a atteint les objectifs pour cette année, donc félicitations, donc tout le monde se met à applaudir. La mauvaise, ben, c'est qu'on a atteint les objectifs pour cette année, et que, ben, si on continue comme ça, l'an prochain, on va nous mettre des objectifs plus élevés. Donc, je demande à tout le monde d'arrêter de faire des ventes pendant les quelques mois qui restent de l'année, et on fera plus rien, et donc je vous demande de marcher moins vite si vous voulez, parce que sinon, l'année prochaine, on va nous mettre une pression de malade. Et c'est là que je me suis dit, il y a un problème. Pourtant, on était dans l'endroit idéal, une entreprise comme on les aime, avec des produits plutôt sexy. Et là, je me suis dit, je veux vraiment être entrepreneur. Donc, ça a confirmé finalement mon envie de monter ma boîte plutôt que de travailler pour quelqu'un d'autre.
D'accord. Et donc là, tu te lances dans Staff tout seul?
Tout seul. Alors, j'avais un développeur.
Mais c'était ta boîte?
T'avais
de l'argent?
J'ai mis toutes mes économies, en fait. Je crois que ça représentait entre 10 et 12 000 euros à l'époque.
D'accord.
Donc voilà, j'ai une petite aide de l'État. À l'époque, il n'y avait pas la BPI, mais j'ai dû avoir 10 ou 15 000 euros. Et mon père avait dû mettre un petit peu d'argent aussi, je ne sais pas, 5 ou 10 000 euros. Et avec ça, j'ai lancé Staff, donc une plateforme de services à domicile.
Web. Donc, du coup, l'idée, c'est quand même qu'il a fallu développer un site. Tu n'y connaissais rien?
J'y connaissais rien. En fait, c'est marrant parce que cette idée, elle a germé lorsque j'avais organisé pour le SCP un voyage dans la Silicon Valley, qui est une région que je connais bien. Et le voyage s'était terminé en fait à San Jose, chez eBay, au siège international d'eBay. Mm-hmm. Et on était devant les exécutifs de chez eBay, donc des managers de ce groupe. Et ils nous font une super présentation sur ce qu'est eBay, etc. Donc, on est en 2007. Et à la fin, je lève la main dans la salle et je dis, voilà, j'ai juste une question. Vous êtes le leader dans le monde de la mise en relation C2C finalement sur les produits, mais pourquoi on ne le ferait pas sur les services? La même chose que ce que vous avez très bien réussi à faire, mais sur les services. Et ils n'ont pas su vraiment me donner de réponse. Ils avaient l'air un peu intrigués. Il y a eu un espèce de blanc et ça m'a fait réfléchir. Alors, c'était une question un petit peu à la con, mais finalement, je suis revenu de ce voyage en me disant, bah, c'est vrai que c'est pas si con que ça. Peut-être pourquoi on ne montrait pas une plateforme pour mettre en relation l'offre et la demande dans les services à domicile, mm-hmm. qui est un secteur qui explose avec une demande qui est grandissante. En plus, avec des incentives fiscaux qui étaient assez intéressants à l'époque, avec les chèques emploi, service universel. Donc, on monte cette aventure. Enfin, je dis on, c'est essentiellement moi.
D'accord.
Et ça vivote. Parce que c'est dur d'être entrepreneur, c'est dur, c'est bien d'avoir une bonne idée, mais en fait c'est marrant, il y a plein d'entrepreneurs qui viennent me voir, qui ont les meilleures idées du monde, mais la question moi que je leur pose toujours, c'est une très bonne idée, et c'est sans doute même une excellente idée, mais comment vous faites pour faire venir du monde sur cette application, sur ce site, parce que même avec la meilleure idée au monde, ben, s'il n'y a personne qui vient, vous êtes finalement qu'une étoile dans la galaxie, et personne, voilà, ce ne sera pas un succès.
Ça c'est quelque chose qui revient beaucoup sur ces échanges que je peux avoir, hein. La comparaison avec la boutique dans une impasse, au fond d'une impasse dans un petit village, mais dire je peux te construire la plus belle boutique du monde, ce qu'on va nous demander, nous, dans des agences digitales, dans nos métiers, voilà, d'accompagner des gens pour faire quelque chose d'extraordinaire. Et les gens pensent que quand tu as créé la plus belle boutique, tout le monde va passer devant et rentrer dedans.
Exactement.
Et en fait, tant que t'es pas sur les Champs-Élysées, personne ne rentre dans ta boutique, quoi.
C'est vrai.
Et ça se paye, les Champs-Élysées.
Ah, mais ça, c'est sûr. Non, mais c'est vrai. Et il y avait un proverbe aux États-Unis. Je le traduirais très mal en français, mais en gros, ça disait, en gros, si tu fais un clin d'œil à une nana dans le noir, ben, il y a que toi qui sais ce que tu fais, en gros. Et là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que si t'as une très bonne idée, mais que personne ne la voit, en gros, ben, ça reste ta très bonne idée, mais t'iras pas très loin. Donc, question d'acquisition de trafic, question comment on peut faire venir du monde. Et c'était vraiment, je sais plus pourquoi je disais ça. Oui, je disais ça par rapport à Staff, justement.
Oui.
De faire venir du monde sur le site. Donc
ça, t'as pas réussi.
Ça, j'ai pas réussi à faire venir beaucoup de monde. Par contre,
autant d'un côté que de l'autre sur le
justement sur les clients, j'avais beaucoup de mal. Par contre, j'ai une chance de dingue. J'étais le deuxième annonceur sur Facebook France. Le premier, c'était le truc de meubles. Tu sais, les meubles qu'on pouvait commander qui venaient de Chine et tu payais moins cher.
Made.com.
Non, juste avant Made.com, c'était une très très belle startup. Le nom va me revenir. Mais en gros, j'étais le deuxième annonceur et donc je payais le CPC, le coût par clic, 0,01 centime et de dollars. Je crois qu'à l'époque, on payait même en dollars.
Oui, je me souviens.
Et donc, ça me coûtait 1 centime de dollars.
C'était le plancher. Tu pouvais pas aller en dessous de 0,01. Ouais.
Et donc, j'ai eu un trafic de dingue côté prestataire, ce qui m'a permis de constituer une base de 50 000 prestataires de services à domicile en France qualifiés. Et c'est ça, finalement, que je réussirai à vendre au bout d'un an et demi, deux ans, péniblement, pour 130 ou 550 000 euros. C'était une base extrêmement qualifiée. Ils en avaient rien à faire du service que j'avais créé. Il n'y avait pas vraiment de vente. Donc, on me rachèterait au final une base de prestataires. Donc, au bout de, voilà, de...
Tu générais pas de revenus sur cette, quasiment, sur cette...
Non, alors, au début, je générais pas de revenus. Mon père m'a mis une pression de dingue. Il m'a dit, ben, c'est simple, je te coupe les vivres. Donc, j'ai commencé à faire des choses un peu bizarres. J'ai vendu des encarts. Sur le site, j'ai vendu des skyscrapers, des bandeaux, voilà, à des sociétés de services à domicile, de ménage, de profs et tout. Donc, il fallait bien que je gagne ma vie. Et à un moment, en plus, j'avais une copine à l'époque qui me coûtait très très cher. À un moment, je me suis dit, bon, ça me permet pas de gagner ma vie, mon entreprise, donc je vais donner des cours particuliers le soir et le week-end à des enfants de mon réseau, finalement, des enfants fortunés du 16e, de Boulogne, de Neuilly.
Attention, on a plein de femmes entrepreneuses qui écoutent ce podcast. Alors, sur les une copine qui me coûtait très très cher, tu vas pas te faire aimer, moi non plus. Hein. Donc je...
c'est vrai, mais malheureusement, on n'avait pas trop le choix. Il fallait bien gagner sa vie parce que les restos, ça coûtait assez cher. Et qu'est-ce que j'ai fait finalement? Je donnais des cours particuliers de maths, de français, physique, bio, guitare. J'étais pas spécialement bon, mais il y avait un besoin. Donc voilà, j'étais payé extrêmement bien. Beaucoup mieux que si j'avais accepté un job à côté de serveur, par exemple. Et ça a duré quelques temps. Et à un moment, je donnais des cours particuliers au fils d'un producteur, d'un illustre producteur de comédie musicale. Et ce garçon me dit, je sais pas, il devait être 21h, il s'appelle toujours Victor, il m'a dit, Stéphane, écoute, ça fait 2 heures qu'on travaille sur ce problème de maths, j'ai pas très bien compris ce que tu viens de m'expliquer. Fais-moi le devoir, fais-moi le truc, et on dira rien à mes parents, et tu seras quand même payé. Et il y a un éclair qui m'a traversé la tête, et je l'ai fait. Et je lui ai fait tout le devoir, et il a eu, je sais pas, 17 ou 18 sur 20, et je suis sorti de là, et j'ai vu son père, et il m'a donné une enveloppe Kraft avec des billets à l'intérieur, et je me suis dit, c'est génial en fait, si tous les enfants pensent comme lui, ou en tout cas, les plus fortunés, on tient quelque chose, on tient un business. Et c'est là qu'avec mon développeur part-time, j'ai une idée un peu saugrenue, un peu farfelue. Je me suis dit, on va monter un site qui va s'appeler faismesdevoirs.com pour faire les devoirs des élèves à leur place, parce que finalement, tous les élèves rêvent qu'on leur fasse leurs devoirs. Et finalement, c'est assez marrant parce que il y avait pas de...
Donc là, tu avais vendu Staff.
J'ai vendu Staff quasiment au même moment.
D'accord.
Où c'était sur la fin, en gros, on savait pas vraiment d'avenir.
Et t'as trouvé quelqu'un, juste pour, avant de revenir sur faismesdevoirs.com, qui est juste un concept hilarant, tu as trouvé quelqu'un, comment? C'est-à-dire, tu as annoncé que tu vendais ou quelqu'un t'a approché pour te dire « je vais t'acheter ton truc ».
Pour Staff, c'était une relation de relations. Je ne sais même plus comment on était mis en contact. Mais en fait, on faisait énormément de bruit. Et j'ai oublié un épisode très important, et c'est marrant, d'habitude, j'en parle plus. Grâce à Staff, j'ai été lauréat de la BFM Academy, deuxième ou troisième édition, qui est un peu la Star Academy version BFM. Donc, il y a moins de gens qui écoutent, mais c'est très quali en termes d'ingénieurs et tout. J'ai même remporté 100 000 euros, je crois, en publicité sur leur antenne, ce qui m'a pas servi à grand-chose vu que j'étais un service B2C. Donc, on les a brûlés en 2-3 semaines sans grand intérêt. Et au final, je l'avais vendu. Je connais plus les circonstances, je me rappelle plus les circonstances exactes. Mais en tout cas, voilà, ils ont surtout racheté une base. Et ils ont mis à la poubelle le site, le nom de domaine et tout ça.
Ok. Donc d'accord. Faismesdevoirs.com. Donc on recommence, on repart à la case départ. T'es tout seul aussi sur ce truc-là?
Alors à la base, je crois même que c'est édité par la société Staff et Mes Devoirs. Pas un associé, j'avais un développeur qui travaillait un peu pour moi quelques heures par semaine et je lui annonce, donc je lui demande. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a pas de CMS, donc on n'a pas de WordPress où on monte un site en 3 minutes. Il faut tout faire from scratch. Donc
on est en quelle année?
On est en 2008.
Oui.
On est en avril 2008. Et c'est Damien, à l'époque, mon développeur, qui avait écrit un super ouvrage d'heure de référence sur le PHP chez MicroApplications, donc vraiment un cadeau. Et il me dit, voilà, il va me falloir 3 semaines pour le développer, le site. Et moi, je me tournais les pouces pendant ces 3 semaines, je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et donc, je me suis dit, on va annoncer finalement le lancement du site en amont. Et c'est là que j'ai découvert un peu l'univers de la presse, des RP, un univers que je connaissais absolument pas. Et j'ai fait un communiqué de presse. En disant, voilà, on va lancer un site pour faire les devoirs des élèves qui va s'appeler faismesdevoirs.com. Moi, je touche un peu ma bille en Photoshop, donc j'ai fait quelques maquettes en faisant croire que c'était le site, qu'il était prêt, alors que pas du tout, c'était juste une maquette qui n'était pas du tout fonctionnelle. Et je l'envoie à TechCrunch, je me souviens, à l'époque. À l'époque, je crois que c'était Auriel et Alain Eshkenazi qui dirigeaient TechCrunch France, quand ça existait. Et ils font un article qui a fait beaucoup de bruit, mais dans la communauté geek, donc qui était un petit peu relais, mais pas plus que ça. Il y a eu quelques commentaires. Et bah, je dis, c'est marrant, ça, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce sujet. On va l'envoyer à quelques journalistes. Et j'envoie à droite, à gauche. Et bon, il y a quelques petits blogs qui en parlent jusqu'au moment où il y a un journaliste du Parisien qui m'appelle, qui dit, voilà, on a reçu votre communiqué de presse, on veut faire un sujet là-dessus. Je dis, bah, pas de souci, on va se voir.
Ça, c'est bien, le Parisien.
Et parce je ne savais pas à ce moment-là.
Il faut savoir une chose, toi qui es devenu, depuis, j'en ai fait quelques-uns aussi, mais un expert des relations presse, c'était encore plus le cas avant, mais c'est toujours le cas. Le Parisien, c'est le journal de référence. Il y a Libération qui est pas mal aussi, mais quand tu as un article dans le Parisien, derrière... Tout le monde voit ultra prescripteur. Beaucoup de journalistes lisent le Parisien. On le sait pas trop parce que souvent on peut percevoir un peu le Parisien comme un journal pas forcément haut de gamme ou d'érudit comme
ça
Le Monde ou
d'ailleurs.
Le Figaro. Mais en fait, en investigation, en enquête, c'est la source de la quasi-totalité des scoops de beaucoup.
Et c'est,
de...
c'est la photographie de la France d'aujourd'hui. C'est pour ça que l'édition s'appelle l'édition nationale Aujourd'hui en France. Et faut savoir quelque chose. Il y a des auditeurs qui sont intéressés pour lancer une opération de buzz. C'est que toutes les rédactions de France lisent le Parisien. Ouais. Il y a des gens qui lisent Le Figaro, d'autres Le Monde, mais toutes les rédactions, le matin, elles se lèvent en disant qu'est-ce qu'il y a eu dans Le Parisien ce matin, parce que c'est une photographie, comme tu dis, c'est pas un journal qui est spécialement un télo ou quoi que ce soit, mais c'est une photographie de la France d'aujourd'hui.
Exactement.
Et donc, c'est extrêmement prescripteur. Et donc, j'ai pas compris ce qui s'est passé après cet article du Parisien, mais le lendemain matin, dans mon bureau, j'avais les 20h de TF1, France 2, France 3, Canal, M6, Reuters, AFP.
Avec un site qui n'était pas lancé.
On a fait croire qu'il était lancé, mais il n'était pas lancé.
Tu avais au moins un truc pour avoir des adresses email, que les gens laissent leur adresse email.
Même pas à l'époque, j'avais pas été aussi malin que ça. Et donc, il y avait une page, j'avais mis le logo dessus, mais j'avais pas mis de formulaire pour en baser. Et donc, au final, ça fait un buzz incroyable. J'avais trois attachés de presse qui s'appelaient Xavier Darcos, Nadine Morano et Valérie Pécresse,
oui,
qui passaient sur tous les plateaux télé, tous les plateaux radio pour dire n'allez surtout pas sur ce site qui va être lancé dans 3 semaines. Et je me souviens, j'étais passé sur Europe 1 à l'époque, j'avais affronté un syndicaliste ou une syndicaliste plutôt, et qui est sur le plateau qui me disait c'est un scandale, vous allez
oui,
faire le devoir.
T'es vu comme un salopard.
Complètement.
Le type qui se fait payer pour faire les devoirs, c'est pas hyper vertueux. Du coup, tu dis, ceux qui ont du pognon, ils peuvent faire les devoirs gratuitement et puis ça les fait pas évoluer intellectuellement. Ceux qui ont pas de pognon, ils peuvent pas le faire.
Alors, nous, on disait que ça venait en substitution des parents qui ont pas le temps de s'occuper finalement des devoirs. Bon, on avait toute une rhétorique par rapport à ça qui était assez.
Toujours avec le sourire.
Toujours, c'est le plus important.
Ne jamais s'énerver.
On restait très calme. Et ce qui est marrant, c'est que. Je vois cette syndicaliste s'énerver sur le plateau d'Europe 1 et au bout de 3 minutes, je me dis finalement dans ma tête que c'est marrant. Tout le pays est en train de se chauffer sur un site qui n'existe pas. En fait, ils sont échauffés sur une image
sur
JPEG
une
que j'ai faite en 3 minutes sur Photoshop. Et en fait, le site n'existe absolument pas au moment où... Et à un moment, je l'arrête la dame et je lui fais « Excusez-moi, madame, mais vous avez vu le site internet ?» Elle fait « Non, j'ai pas vu, mais le concept est un scandaleux. » Et c'est marrant et je me suis dit à ce moment-là, on peut s'émouvoir énormément d'un projet, d'une idée de projet et pas du tout d'une entreprise qui existe. Et donc, pour la faire courte, le jour de l'ouverture, c'était un jeudi en mars ou en avril, donc 2008. Et donc, on ouvre le site, on appuie sur le bouton en gros pour lancer, on fait le truc. Le site saute, bien sûr. Et en l'espace de 3 heures, on a eu 850 000 visiteurs uniques sans dépenser un seul centime en communication et on a eu 20 000 commandes. Donc, il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et j'ai reçu pas mal de pression d'en haut me demandant de fermer le site internet indirectement sur ma famille. Il y a eu des menaces. Moi, j'étais sorti du circuit scolaire, mais d'autres non. Et donc, j'ai eu pas mal de menaces indirectes qui ont pesé sur moi et j'ai donc dû fermer ce site internet fermesdevoirs.com qui était pourtant promis un bel avenir. Et pour la première fois de ma vie, j'allais faire du chiffre d'affaires, ce que j'avais pas fait jusqu'à présent, parce que j'avais 20 000 commandes qui n'attendaient que être honorées.
Mais ouais, parce que en fait, il y avait aucun fondement juridique. C'était juste une image qui plaisait pas à des gens, mais t'avais complètement le droit de faire ça.
Complètement. C'était pas moral ni éthique, mais c'était parfaitement légal.
Avec le recul, tu regardes ça comment ?
Ouais, je trouve que c'était marrant. C'était une aventure assez marrante qui a jamais eu lieu finalement parce qu'on a ouvert le site pendant 3 heures et qu'on l'a fermé ensuite.
Parce qu'il y a quand même un petit peu, excuse-moi, je te coupe, mais il y a quand même un petit peu, quand tu fais, donc sur ce fils de producteur de spectacle, quand tu lui fais son truc, que tu prends ce billet à la sortie, il brûle un peu les doigts ce billet, parce que tu te dis, je lui fais un peu à l'envers quand même, non?
À ce moment-là, où je l'en ai parlé après, bon, c'est un ami, je peux dire qui c'est parce qu'il est au courant, c'est Albert Cohen, c'est le producteur avec Dovatia, des 10 commandements, Le Roi du Soleil, Mozart, le Père Rock, c'est un copain. Mais on en a beaucoup rigolé après coup, mais c'est vrai que sur le coup, si je lui avais dit, ça l'aurait moins fait rire.
Son fils a bien terminé?
Son fils a bien terminé, c'est un comédien qui réussit très bien sa carrière. Bon, il n'a pas fait des maths au final, la physique ou de la bio, mais c'était marrant comme tout.
Ok.
Donc cette histoire de fait mes devoirs, ça m'a donné une couverture médiatique incroyable, puisque quand tu fais le 13h et le 20h de tous les journaux du pays, il y a au final, je sais pas, plus la couverture de Libé, à l'époque de Luma, de François, tout ça, il y avait peut-être 30 millions de personnes qui m'avaient vu. Donc ça m'a donné une énorme visibilité, mais j'ai dû fermer le site à cause des pressions. Et donc le jeudi, j'ai ouvert le site, le vendredi, je l'ai fermé, et le samedi matin...
Donc du coup, t'as gagné zéro?
Du coup, j'ai gagné zéro et ça m'a coûté 2 ou 3 000 euros en hébergement, en remboursant certaines personnes et tout. Et samedi matin à 10h, sur Skype, j'ai une dame qui m'appelle et qui me dit « Voilà, Monsieur Boukris, j'ai le président Descroix-Vernier qui veut vous parler. » Alors, je suis pas mauvais pourtant en géopolitique, mais le président Descroix-Vernier, je connais pas. Je sais pas de quel état il était.
D'accord.
Exactement. Et je vais sur Google, je tape Jean-Baptiste Descroix-Vernier. Et s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, ils peuvent taper Jean-Baptiste Descroix-Vernier. Ils verront un type sur une péniche à Amsterdam, dreadlocks, kilt, 20 cm de talons, façon buffalo, des bouts de verre encastrés dans les talons, un Nouveau Testament dans la main gauche, un iPod à l'époque dans la main droite, des chats qui se baladent sur sa péniche. Et je vois que ce personnage veut me parler. Et je dis, bon, pas de souci, moi j'avais rien à perdre puisque j'avais vendu staff, j'avais fait mes devoirs. Je me cherchais un petit peu, enfin ça faisait 24 heures, mais je me cherchais un petit peu. Et donc je dis, je vais l'appeler. Et samedi après-midi, j'appelle donc sur Skype Jean-Baptiste Descroix-Vernier. Et il me dit, avec une voix grave, il me dit, Stéphane, j'ai beaucoup suivi ton parcours, la BFM Academy, fait mes devoirs. J'ai besoin d'un gars comme toi pour venir diriger certaines filiales chez moi. C'est super, très bien. Donc, vous êtes en train, en gros, de me faire une offre. Il fait, oui, je te fais une offre. Combien tu voudrais gagner? Alors, moi, j'avais jamais gagné de salaire. Et je me souviens à l'époque, je devais avoir 25 ans, tous mes copains avocats, ils me disaient tous, je gagne 70, 75, 80 000 euros. Et je dis, bon, très bien. Je vais mettre 80 000 euros. Et sur Skype, je lui tape 80 000 euros. Et il me dit, très bien, c'est ce que tu vas gagner première année. Alors, dans ma tête, je me dis jackpot. Oui, je me dis plutôt mince, j'aurais dû demander plus. Mm-hmm. Mais en gros, je dis, c'est fantastique. Je dis, écoutez, monsieur Descroix-Vernier, j'ai vu que vous étiez sur une péniche à Amsterdam. Donc, je prends un billet de Thalys. Il était, je sais pas, 16-17 heures. Et je serai chez vous, je sais pas, à 20h, 21h. On va manger un bout, on va boire un verre et on pourra donc se parler. Il me dit, non, Stéphane, on va pas se voir et on se verra sans doute jamais. Je lui dis, mais attendez, vous me proposez un job et vous voulez pas qu'on se voit? Il me dit, non, tu sais, je dirige un groupe de 150 personnes, mais physiquement, dans mon groupe, j'ai rencontré que 5 personnes qui sont principalement les administrateurs comme Bernard Arnault, François Pinault, Jean-Marie Messier, etc. Et je lui dis, alors, qu'est-ce que je dois faire en gros, où je signe? Il me dit, voilà ce qui va se passer. Nous sommes samedi. Mardi, tu vas te rendre à Gennevilliers. Alors, l'adresse était dans une zone industrielle. Je me suis dit, les mecs m'attendent avec les battes de baseball, c'est un guet-apens, le truc, c'est une embuscade. Et voilà, tu vas te rendre à telle adresse. Et rue du Fossé Blanc. Il y a un type qui s'appelle Romain Perra. Il va venir te chercher, il va t'emmener à ton bureau, au deuxième étage. Sur le bureau, il y aura une enveloppe. Et dans l'enveloppe, il y aura un contrat à durée indéterminée. Tu signeras ce CDI et tu deviendras un ninja. Et donc,
lunaire,
donc sans savoir pourquoi, mais j'avais pas grand chose à perdre, je suis devenu en gros un ninja.
Là, t'avais envie, là, quand même.
De quoi?
Là, t'avais envie, non?
J'avais envie, en fait, j'avais surtout pas le choix. mais c'est vrai qu'il est motivant. Et il y avait un bon package. En tout cas, par rapport à mon profil, à l'époque, je trouvais ça assez intéressant. Et donc, j'ai signé chez Rentabiliweb. Qui s'appelle maintenant Dalenis, qui était racheté par Natixis l'an dernier.
Ouais.
Avant
d'aller là-dedans, donc dans cette histoire de Rentabiliweb, de Jean-Baptiste Descroix-Vernier, qu'il faut absolument que je voie pour ce podcast également. Jean-Baptiste, si vous nous écoutez. Il y a nos amis anglais utilisent le mot key learning, mais ce que tu as appris avant, j'ai l'impression que c'est quand même énorme par rapport à tout ce qu'on va raconter après. C'est-à-dire cet apprentissage de la presse, cette confrontation aux politiques, parce que t'as joué dessus à plusieurs reprises, la provocation, ce côté borderline moral assumé, mais pas vraiment parce que t'es pas un sale type en vrai. Enfin, non mais c'est vrai. Mais on pourrait se dire, je veux dire, il y a ce côté un peu, je le dis avec, tu vois, je te vois te marrer, hein, tu t'assumes ce côté très très sur le fil parce que c'est comme ça que tu fais parler de toi.
Bah c'est vraiment la différenciation pertinente comme avait enseigné Maximilien Brabeck à l'époque à l'ESCP. Aujourd'hui, faut bien trouver une manière de se différencier. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément les moyens de se créer, voilà, de faire des grandes choses quand on sort de ces études. Et finalement, avec le buzz, j'ai pu faire quelques opérations assez marrantes, en tout cas qui ont fait marrer des gens, ou en tout cas quelques années après qui nous font marrer, et qui m'ont fait remarquer. Et ça m'a énormément aidé. Et c'est vrai que j'ai appris beaucoup. Alors, ça n'a pas été facile parce que voilà, les épisodes qu'on va raconter, ils peuvent être parfois douloureux, en tout cas sur le coup, ils l'étaient. Mmh. Mais rétrospectivement, je regrette rien parce que vraiment, c'est comme il disait Steve Jobs dans le discours de Stanford, on connecte les dots après coup. C'est-à-dire parfois, on ne sait pas pourquoi les choses nous arrivent ou de cette manière-là dans la vie. Mais après coup, 5, 10, 15 ans après, on comprend pourquoi ça a été fait comme ça et qu'on n'en serait pas là où on est si ça ne s'était pas produit.
Mmh. Et du coup, cette différenciation pertinente, ça m'intéresse comme concept. On est d'accord que ton approche est quand même de dire si je me mets dans la norme et que je fais comme tout le monde, bah finalement personne ne parlera de moi. Donc il faut que j'aille à un moment me différencier quelque part sur quelque chose qui va générer non seulement une visibilité, puis potentiellement du business ou voilà, c'est pas une visibilité gratuite entre guillemets qui t'apporte rien, il y a toujours une finalité. C'est de plus en plus organisé, j'ai l'impression, dans ton
c'est sûr. Et après j'ai cherché à monétiser tout ce buzz, c'est vrai. Mais avant l'enregistrement, on parlait d'une citation assez marrante justement. Be yourself because everyone else is already taken. Sois toi-même parce que tous les autres sont déjà pris.
Oscar Wilde. Mais c'est ça. OK.
C'est assez marrant. Et donc voilà, donc j'ai intégré à l'époque une entreprise qui s'appelait Rentabil Web qui était cotée sur Alternex qui devait valoir je sais pas 100 120 millions d'euros peut-être en valorisation.
Et tu recrutes en tant que quoi du coup ?
Je dirigeais le pôle Publishing Services, ça veut pas dire grand-chose mais il y avait beaucoup de sites de jeux notamment au sein du groupe. Et je sais pas trop pourquoi j'étais là, eux non plus d'ailleurs s'il y en a qui nous écoutent, ça va les faire sourire. Mais j'avais voilà quelques responsabilités, du budget, quelques collaborateurs. J'ai fait ma place au sein de ce groupe pendant quelques mois, quelques temps. Et à un moment, j'ai quelqu'un qui s'appelle Cyril Dubrow, qui était le directeur de Mailorama, qui est encore une filiale aujourd'hui de Rentabil Web. Mailorama, ils font du cashback. Donc, pour chaque achat fait en ligne, ils vous donnent, au lieu de donner des points comme à la station essence, ils vous donnent un petit peu de cash. Donc, vous faites 1000 euros d'achat sur Darty ou Fnac.com. Vous allez récupérer 5 euros en cash et à partir de 20 euros, vous pouvez récupérer ça.
Parce que, on a parlé de Capital Koala ici sur ce podcast avec Jean-Yves Bernard notamment. Donc lui, un cashback sur tout ce qui est fait et qui est en fait sur un compte pour les enfants. Mais en effet, un phénomène cashback qui est très gros, notamment avec le digital, dans les pays anglo-saxons, mais qui a jamais complètement plus pris que ça en France. Hein,
non.
Bizarrement.
Ça a jamais été la folie parce qu'après, c'est culturel. Quand on voit que vente privée n'a pas réussi à s'implanter aux États-Unis, il y a une dimension culturelle qui est très importante. En France, c'est vrai que ça a beaucoup moins marché qu'ailleurs. Mais Mailorama était numéro 3 quand je suis arrivé au numéro 4 sur le marché. Il y avait aussi Graal, les Cash Store de Catherine Barba. Il y avait quelques acteurs qui se partageaient un gâteau qui n'était pas énorme. Et donc voilà, donc Cyril vient me voir, il me dit Stéphane, t'es le petit gars du buzz. En arrivant chez Rentabil Web, j'avais fait une
ça te définit bien, ça. le petit gars du buzz à l'époque en tout cas.
J'espère être plus bise que buzz.
Je suis revenu sur à l'époque. Hein, ouais, je l'ai dit avant.
Cyril me dit parce qu'en fait en arrivant chez Rentabil Web, j'avais lancé une opération qui s'appelait saleboulot.com. Je crois que ça n'existe plus. C'était un faux site en gros pour promouvoir un des sites de Rentabil Web. Et le but c'était de créer. Donc ça, le boulot, c'était les jobs que personne ne veut faire, mais quelqu'un doit bien s'y coller. Et t'avais le grondeur d'enfants, t'avais la testeuse de fidélité, t'avais le ramasseur de déjection canine. Je crois qu'il y a encore les vidéos sur YouTube. Et ça avait fait un buzz marrant. Bouvard en avait parlé dans ses émissions. Ruquier aussi. C'était vraiment un succès en termes de buzz. Et en interne, rapidement, ils m'ont vu comme le gars de la com, le gars des opérations un peu décapantes. Et donc, ce Cyril me dit, Stéphane, moi, je dirige Mailorama. On a atteint notre potentiel maximum sur Internet. Fais-nous une opération comme tu sais en faire, comme tu as fait pour faire mes devoirs, qui était même pas une opération de buzz à la base, qui était vraiment un site e-commerce. Mais il m'a dit, en gros, fais ce que tu sais faire, fais-nous une idée. C'est en une idée marrante. Et je lui dis, ben, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il dit, ben, on fait du cashback, voilà, on distribue de l'argent contre des achats sur Internet. Et j'ai dit, ben, c'est marrant, si vous distribuez de l'argent, il faut distribuer de l'argent. Et je lui dis, voilà, vous avez vu le film de Tim Burton, Batman, avec Jack Nicholson de 89. Et Cyril me dit, oui, mais je vois pas trop le rapport avec mon business. Je lui dis, ben, c'est très simple. Dans Batman, le premier opus, on a Jack Nicholson en Joker. Je crois qu'il avait eu un Oscar d'ailleurs pour ce rôle. À la fin, il est à bord d'un ballon dirigeable et il donne des billets et balance des dollars sur Gotham City, s'attirant finalement, voilà, les faveurs de la foule finalement de Gotham City, qui se battent un petit peu pour récupérer l'argent dans Gotham City. Et il me dit, oui, mais alors quel rapport avec ce qu'on fait? Je lui dis, c'est très simple. Si tu offres des places pour un concert de Madonna, bah, il y a des gens qui aiment Madonna, il y a des gens qui n'aiment pas Madonna. C'est pas le plus petit commun multiple, c'est pas le dénominateur commun. Par contre, si tu offres de l'argent, je suis prêt à parier que 100% des gens vont vouloir cet argent. Il dit oui, développe. Et je dis voilà ce qu'on va faire. On va louer un bus anglais, un double decker, un bus impérial, et on va distribuer des billets de 5 à 500 euros. Alors, dans mon idée originale, je vais distribuer 3 à 5 000 euros. Et il me dit, OK, bon, on va en parler au board. Et après, étude du board, c'est 5 000 euros. À l'époque, moi, je voulais même pas le faire. J'ai dit, on va annoncer qu'on va distribuer 5 000 euros et en fait, on le fera pas. Et le board a dit, hors de question qu'on monte sur une opération de buzz marketing. Non seulement on va le faire, mais on va pas distribuer 5 000, on va distribuer 100 000 euros. Et je dis, bon, bah, c'est super, l'opération va bien avoir lieu. Et donc, c'est même moi qui était en charge avec une équipe de mettre les billets de 5 à 500 euros dans des petites bourses avec marqué Mailorama. Et le but de cette opération, donc, c'était un bus qui se baladait dans Paris et qui distribuait sans aucune contrepartie des billets de banque. Enfin, il y avait des bourses dans lesquelles il n'y avait rien, d'autres il y avait 5 euros, 10 euros.
Donc l'idée, c'est quand même de montrer que Mailorama distribue de l'argent. C'est
exactement, il y avait une métaphore, reviens, l'idée ouais. C'était de se dire, on vous distribue de l'argent online et offline, et finalement, on ne devait pas le distribuer en itinérant, parce que c'était trop dangereux. On nous a dit, restez au musée Joffre, musée des armées invalides, parce que c'était l'endroit, soi-disant, le plus sécurisé de Paris, parce qu'en dessous, il y a l'ARG, etc. Et donc, on nous a donné rendez-vous. Quoi.
Je croyais que c'était près de la Tour Eiffel. Moi.
C'est
d'accord.
C'est juste à côté du Champ de Mars.
Okay.
Et le 14 novembre 2009, donc pareil, on a fait une annonce, on a fait un warm-up. Il y a plein de techniques dont on pourra reparler sur le buzz marketing. Mais 100% des médias, je crois, même l'équipe en avait parlé, je ne sais plus comment.
Oui, c'était
mais
100% annoncé partout.
Partout, même la veille, j'avais fait un énergie la veille. Vraiment jusqu'au matin même. Et le matin même sur BFM, iTélé, à l'époque c'était iTélé. Tout le monde en parlait.
Sachant que là-dessus, on peut, alors ça se faisait plus à l'époque, c'est plus facile, mais on pouvait capitaliser ou estimer le succès d'une opération de relations presse ou d'une opération comme ça en comparant le prix d'un passage en télé, en radio, en presse, par rapport à l'équivalent en achat publicitaire. Alors que là, donc, les 100 000 euros investis.
C'était rien du tout.
C'était rien du tout. Je peux te dire, c'est donc presque 10 ans après. Bon, alors, on s'est connus un peu après, mais c'est un truc qui avait fait c'était phénoménal.
Pareil, tous les 20h et les 13h du pays, tous les hommes politiques. Et c'est ça qui fait parfois une bonne opération de buzz. Il y a Reuters, l'AFP, des agences comme ça, ou des officiels qui le reprennent. Quand il y a le Premier ministre qui en parle 5 fois dans la semaine, c'est que c'est un sujet sérieux.
C'est ça, donc relation aux politiques encore, qui revient en
tout
pleine
à fait,
gueule.
Tout à fait. À l'époque, François Hollande n'était pas encore président, il en avait parlé, Sarko en avait parlé. C'était vraiment quelque chose de fort médiatiquement parlant. Et le jour J, alors je me souviens, j'avais un collaborateur chez Rentabili Web. Le jeudi ou le vendredi, donc l'opération c'était le samedi 14 novembre 2009, et le vendredi il me dit, franchement ton opération, s'il y a 300 personnes, on pourra s'estimer heureux parce que je pense pas qu'il y aura beaucoup plus. Et ce jour-là, il y avait pas 300 personnes, il y avait 50 000 personnes selon la police, ou je crois 45 000, qui étaient massées là et qui attendaient leur argent. Sauf que, pour plein de raisons que je peux pas forcément évoquer, il devait y avoir 25 cars de police. On a eu une voiture de police banalisée, d'ailleurs, qui a été fracassée, retournée façon Street Fighter 2, qu'on retrouve d'ailleurs dans les photos sur Google. Et donc, l'opération n'a pas eu lieu comme elle aurait dû avoir lieu. Et finalement, on a été très, très mal sécurisé, contrairement à ce qui nous avait été promis pour plein de motifs politiques, mais je ne peux pas trop en parler ici. Et l'idée, c'est que bah, finalement, on n'a pas pu distribuer l'argent. Donc le bus, on est parti de l'avenue MacMahon. On devait arriver à l'endroit. Et j'ai le préfet de police de Paris qui m'appelle à l'époque et qui me dit « Ne venez pas, sinon il va y avoir des morts. » Et donc, moi, je ne voulais pas qu'il y ait des morts. Et donc, j'ai fait demi-tour. Et pendant ce temps, j'ai mon attaché de presse, Tigénia, qui dirige toujours Calima d'ailleurs, qui me dit « Stéphane, il faut que tu viennes. Ils sont prêts à tout casser. Il faut que quelqu'un prenne le micro. » Il y a beaucoup de lascars, ils veulent un responsable. Je dis, bah ouais, mais moi, j'ai pas envie de me faire digouiller. Et donc, à ce moment-là, c'est un peu parti dans tous les sens quand ils ont compris que l'opération n'allait pas avoir lieu parce qu'on a dû l'annuler sur la demande du préfet de police. Et donc, bah, les gens ont tout cassé. Enfin, les gens qui étaient là, ils étaient venus avec des marteaux, des machettes, un petit peu comme dans Blood Diamond, sur avec les vraies machettes. Et ils voulaient tout casser. Et ils ont tout cassé, d'ailleurs. Il y a eu de la castagne. Et à la suite de ça, les politiques se sont réveillés. Ils se sont dit, c'est pas possible. On peut pas se permettre qu'il y ait une deuxième opération Mailorama qui ait lieu. Sinon, parce que n'importe qui veut faire le malin va annoncer la même chose et va attirer beaucoup de monde et beaucoup de buzz. Et donc, ils ont voté la loi, le volet 3 de la loi LOPCI 2, quelques mois, 6 mois après, qu'on a appelé la loi Boukris dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Alors, j'espère qu'on passera à la postérité pour autre chose, mais qui interdit de distribuer de l'argent pour une opération marketing. Donc, s'il y en a qui nous écoutent, qui disent « Génial, je vais faire la même chose », vous tombez sous le coup de la loi Boukris et je prends pas de commission.
Oh, la loi Boukris, quelle classe.
Donc ça, c'est marrant.
Et du coup la morale de l'histoire...
La morale, c'est qu'on a obtenu... je crois que l'opération a généré plusieurs millions, j'ai pas envie de dire de chiffres pour pas me tromper, mais c'est plusieurs millions de marge opérationnelle supplémentaire pour le groupe grâce à cette opération.
Vous avez payé les dégâts d'une manière ou d'une autre ou...
Non, il y avait des assurances, mais la ville était responsable. À l'époque, je crois qu'il y a Brice Hortefeux qui a voulu nous assigner personnellement en justice, et bon, la plainte a été déboutée. Parce que finalement, il n'y avait pas beaucoup de sens. Nous, on s'était tenu à toutes les consignes de sécurité, et je pense qu'il y a une volonté que ça se passe comme ça. Je peux pas en dire plus, mais il y a une volonté qu'à ce moment-là, si on regarde un petit peu les élus à ce moment-là dans le 7e, il y avait une volonté qu'il y ait de la castagne à cet endroit-là à ce moment-là. Et je pense qu'on a servi un petit peu de cobaye un petit peu pour tout ça.
Et là-dessus, donc, tu fais partie de ces rares entrepreneurs qui peuvent un peu avoir fait face à plusieurs reprises donc à la politique, aux politiques.
Ouais, mais c'est même pas ça le plus dangereux. Le plus dangereux, c'est pas d'avoir un ministre qui vous attaque en frontal sur une radio. Le plus dangereux, c'est d'avoir 50 000 personnes qui veulent votre peau, en fait, puisque j'ai eu des menaces de mort. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de cette histoire, mais il y a quelqu'un, je crois que c'est sur Dailymotion, sur une des vidéos, on peut le retrouver en commentaire. Alors bon, j'ai eu tout type de critiques que tu peux imaginer, mais un truc qui me fait beaucoup rigoler maintenant. Il y a un type qui m'a dit, je vais me laisser pousser les ongles pour pouvoir te crever les yeux. et j'avais eu aussi des menaces de mort à l'époque pour faire mes devoirs, mais là, bon, c'était assez grave. Et là, pour le coup, ça a refait tous les 20h et les 13h du pays, les couvertures de tous les journaux. Une fois, je me souviens, j'étais dans le métro, il y a trois personnes qui avaient des journaux où il y avait ma tête en première page du journal, en couverture. Et je savais plus où me mettre. J'avais une casquette que je baissais comme ça. Et je suis pas sorti de chez moi, je crois, pendant, ou de chez mes parents, parce que j'étais chez mes parents à l'époque, pendant peut-être 15 jours.
J'aurais un sponsor au milieu de l'épisode. Je dirais, voyez, c'est arrivé deux fois. Il a fait deux fois un énorme buzz et ce n'est pas la dernière fois. Et là, je couperai en disant, on est de retour dans 5 minutes. Mais il n'y a pas de sponsor au milieu de l'épisode. Donc, on va continuer. parce que c'est pas la fin, quoi. Loin de là.
Il y a encore beaucoup de choses assez croustillantes. En fait, ce qui s'est passé après, c'est moi, j'étais un peu choqué, comme on peut l'imaginer avec tout ça. Et Jean-Baptiste a vu ça, donc j'ai eu une super prime, bon, parce que le groupe en a profité, mais Mailorama est passé de 3e à 1er sur son marché, grâce à cette opération. Économiquement parlant, ça a été un énorme succès. Alors, ça n'a pas été raconté comme ça, forcément, par tous les médias, mais businessment parlant, ça a été un énorme succès en termes de chiffre d'affaires, de marge, d'acquisition. Ça a été vraiment un succès au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer.
Je pense que je ne connaîtrais pas Mailorama sans cette...
Personne. Ouais, c'est sûr. Après, ils ont essayé de redresser l'image parce qu'on s'est fait un peu tacler. Mais il y avait une image qui était là, en tout cas. Et en fait, il y a un blogueur. Je peux pas dire son nom parce que il m'en voudrait. Mais il y a un blogueur qui a dit, c'est un scandale, cette opération. C'est un petit con. Franchement, c'est scandaleux ce qu'il fait. Bon, allez, je vais quand même m'inscrire sur Mailorama pour voir de quoi il s'agit. Et ça, c'est très symptomatique finalement parce que même les gens qui nous haïssaient s'inscrivaient et un inscrit, ça a énormément de valeur sur Mailorama.
Et du coup, c'est intéressant ce que tu dis là. C'est que il y a ce côté, petit con, parce que pour faire ce genre de choses, il faut quand même assumer, tu sais où tu vas en faisant ça, quand t'es un peu borderline sur tout ça. T'es conscient.
On était suivi par d'autres fous sur cette opération. C'est ça qui était bien, c'était un fou validé par un autre fou.
Oui, oui.
Ça, c'était pas mal.
Mais tu sais où tu vas. Je veux dire, tu sais que tu vas prendre plein la gueule. Ça t'a quand même choqué après?
Ça m'a choqué ce qui s'est passé parce qu'il y a eu des violences, il y a eu beaucoup de choses. Je pensais pas qu'on avait de telles populations dans les rues de Paris. Ça m'a beaucoup, beaucoup choqué. Et c'est pour ça, juste après d'ailleurs que Jean-Baptiste a vu ça et après m'avoir donné des primes, etc., et que ce soit bien passé, il m'a dit, écoute, on va te mettre au vert, pas au placard, hein, mais au verre. Donc, tu vas t'occuper des services interactifs avec quelqu'un qui s'appelle Nordine dans notre équipe. Et vous avez une équipe de, je sais pas, 4-5 personnes. Et vous allez vendre des 0800, tu sais, à des radios, des télés, ouais. Des trucs pas très sexy, très low-tech. Alors que moi, j'adore la high-tech.
Mais très rentable.
Mais très rentable. Très rentable, c'est ce qu'on appelle les services interactifs. Quand aujourd'hui, vous appelez, je sais pas quel animateur télé, mais Fogiel ou Cohen sur une des radios, s'il vous donne un numéro, bah, y a quelqu'un au passage qui gère cette partie un petit peu téléphonique et qui prend sur chaque euro de, par minute, un petit pourcentage. Donc, c'est très rentable. C'était pas très intéressant, mais mon boulot, ça consistait à aller voir les patrons des radios, des télés, et leur vendre des trucs qui m'amusaient pas plus que ça.
C'est, et ça, c'est pour certaines télés, hein, je crois qu'on parle de chiffre d'affaires en dizaines de millions d'euros annuels.
Millions, c'est énorme. Ouais, ouais. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Ils s'en dépendent et ça crée vraiment des revenus additionnels. Mmh. C'est pour ça qu'il y a encore des émissions de télé qui disent pas aller sur Twitter, mais qui disent composer le 36, 25 ou 28 ou je sais pas quoi. On faisait aussi les 8, 22, 23, ou si tu veux rencontrer l'amour, envoie je sais pas quoi à tel numéro. Donc, des trucs assez marrants, mais pas très businessment parlant, c'était pas intéressant. Et donc, je vais voir des patrons de radio. J'ai un petit sens commercial, donc j'arrive à décrocher des rendez-vous, à faire quelques deals. Bon. Et à un moment, je me retrouve après quelques échanges sur LinkedIn, dans le bureau de quelqu'un qui s'appelle Roberto Ciurleo, qui était l'ancien directeur des antennes d'énergie, qui était l'oreille d'énergie, donc il avait droit de vie ou de mort sur des titres. Il avait levé 20 millions de dollars, il avait levé avec Emmanuel Jair 20 millions de dollars pour tuer Énergie. Donc, c'était deux anciens d'Énergie qui avaient levé 20 millions. Ils voulaient tuer Énergie en créant les web radios. Mmh. À l'époque, ils se sont dit, bah, on va tuer Énergie qui n'est pas encore sur les web radios et on va créer des radios. Ça s'appelait Goom Radio. Ouais. Et ils se sont dit, bon, l'histoire a voulu complètement le contraire, que Énergie les a tués en créant des web radios surpuissantes et je crois qu'ils ont brûlé une grosse partie des 20 millions. Mais bon, à cette époque-là, c'était Goom Radio, c'était incroyable, il y avait peut-être 40 personnes, ambiance très fun, et ce Roberto me fait venir dans son bureau, on se connaissait pas, j'arrive avec un contrat de, je sais pas, 70 pages en vendant ma salade, et il arrive, il me serre la main, il fait « Baby, c'est génial, je suis très content de te rencontrer ». Alors déjà, c'est marrant, il m'appelle Baby alors qu'on s'est jamais vu. Mmh. Et il feuillette le contrat, en fait, il le feuillette même pas, il signe le contrat, il savait absolument pas ce qu'il y avait dedans. Totale confiance, et il signe, je sais pas, 60 pages de contrat. J'aurais pu marquer n'importe quoi dans ce contrat. Baby, c'est génial, je te fais confiance. Et il me signe 60 pages de contrat. On ne se connaissait pas 10 minutes avant. Alors moi, je suis aux anges, et je m'étais renseigné. J'avais vu sa bio sur Wikipédia juste avant, et je sais ce qu'il avait fait et ce qu'il avait été. Et donc, à la fin, j'ai pris mon courage à deux mains, et je sors de ma besace, eu un disque. À l'époque, on écoutait encore des disques. Avec une maquette d'une comédie musicale qui s'appelait La Voix des rêves, que j'avais écrit et composé avec l'aide de quelqu'un de très bien qui s'appelle Michael Aknin. Et je dis, voilà, je sais, Roberto, que tu étais l'oreille d'Énergie pendant tant d'années. Écoute, moi, j'ai écrit ça, je sais pas ce que ça vaut. J'ai une passion pour la musique, une passion pour l'entertainment. Dis-moi ce que tu en penses.
Mais attends, parce que du coup, on n'en a pas parlé, ça, mais t'es musicien quelque part ou tu sais
très mauvais. Je suis passionné par la musique, mais j'ai artistiquement, j'ai jamais été reconnu pour quoi que ce soit, et je pense que je le serai jamais.
D'accord. Mais donc tu produis avec des musiciens.
Tout à fait. Alors ça, pour le coup, je l'avais vraiment écrit et composé. Mais
quand tu dis écrit et composé, c'est
écrire
des notes,
les paroles et composer, tout
d'accord.
À fait.
Okay, okay.
Les arrangements et tout ce qui va avec mon petit clavier et ma petite guitare. Et donc
ça t'a pris d'où? Enfin,
j'avais écrit dans
toujours,
ma chambre.
Non, mais depuis toujours, t'as fait du solfège.
Depuis toujours, j'ai fait du solfège. J'ai été formé en colo à l'époque des colos. Chacun avait une guitare et tout. Et j'avais écrit ce truc. Je sais vraiment pas ce que ça valait et je connaissais personne dans le milieu. Et donc je rencontre quelqu'un du milieu et je lui dis donc voilà, Baby, puisque tu m'appelles comme ça, dis-moi ce que tu en penses. Et il me dit voilà, Stéphane, on va se voir au Murat dans 2 semaines. Alors, 2 semaines plus tard, on se retrouve au Murat, qui est un petit peu son quartier général.
Porte d'Auteuil, oui.
Porte d'Auteuil, lieu très connu.
Beaucoup de gens des médias, oui.
Tous les people sont là. Et il me dit, Baby, j'ai écouté ta maquette. Alors, je fais, alors qu'est-ce que ça vaut? Il me dit aussi, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Alors, moi, je lui dis, ben, commence par la mauvaise. La mauvaise, c'est que c'est à chier. J'y vais, comment ça, c'est à chier? Il dit, c'est à chier. J'ai écouté. Enfin, il me dit, c'est à chier. Je devrais pas dire ça. C'est pas à chier, mais tu n'as pas le talent aujourd'hui qui puisse correspondre à ce qu'on attend sur les stations. Donc, c'est pas ce pourquoi tu es fait. Cherche pas, c'est pas ton truc. Choisis un autre chemin. Bon, et c'est quoi la bonne nouvelle dans ces cas-là? Comment je dois le prendre? La bonne, c'est que tu vas quitter Rentabilly Web et qu'on va s'associer, parce que bon, Goom, je sens que c'est sur la pente descendante, il me dit. On va s'associer, on va monter une comédie musicale parce que tu as l'air d'adorer ça. Je dis, bah oui. Il me dit, j'ai deux amis paroliers, Lionel Florence et Patrice Guiraud, donc qui avaient écrit Les Dix Commandements, Le Roi Soleil, Mozart, l'Opéra Rock. C'est les plus grands, je pense, ils font partie du top 5 des plus grands paroliers français. Ils ont écrit pour Johnny Hallyday, ils ont écrit pour Obispo, Calogero. C'est vraiment, ils font partie des plus grands. Ils disent, on va mettre ces deux-là dans la boucle. Et j'ai une copine, Éléonore. Aujourd'hui, c'est Éléonore, c'est la femme du chanteur Grégoire d'ailleurs. Éléonore. Et on va, voilà, on est une petite équipe, on va fonder une comédie musicale, on va monter une comédie musicale. Et une semaine plus tard, on se retrouve chez Virgin Megastore. Ça fait un peu vieux con quand je dis ça parce que ça n'existe plus, mais à l'époque, sur les Champs-Élysées, il y avait Virgin Megastore, qui était un peu un monument culturel où on pouvait acheter des disques, des livres, qui étaient dans le siège de l'ancienne Banque de France, je crois, puisqu'il y avait un coffre au sous-sol. Et il me dit, trouve-moi une idée, trouve-moi un thème original. Et on va au rayon des livres pour enfants. Et je vois, je lui sors un livre, je dis, tiens, ça n'a jamais été fait. Et il regarde et il dit, c'est pas mal du tout. Et c'était quoi? C'était Robin des Bois. On fait les statues, on fait le pacte, et quelques mois plus tard, on se lance sur la production de Robin des Bois, qui a été un énorme succès. Je crois que c'était le dernier gros succès des comédies musicales françaises, puisque ça a fait 1 850 000 spectateurs dans toute la France, incroyable, avec une tournée triomphale qui était portée par l'artiste Matt Pokora, M. Pokora. Et donc, ça a été une réussite incroyable. Pour des raisons que je ne peux pas complètement aborder sur ce podcast.
Trop de choses que tu ne peux pas aborder.
Comment ?
Il y a trop de choses.
Après, on est sous document juridique, mais en gros, on a eu des gros différends avec Robert Tour. Ça s'est très bien passé avec tout le monde. J'ai des très bonnes relations avec quasiment toute l'équipe. Mais avec Robert Tour, on a eu pas mal de différends, ce qui a abouti à une séparation.
D'accord.
Et finalement, j'ai revendu mes parts. Quelques mois avant la première de ce beau spectacle, Robin des Bois.
D'accord.
Ça a été d'ailleurs un peu dur, puisque finalement, tu vois ton enfant vivre et grandir loin de toi, hein, quelque chose que tu as engendré, grandir, repris un petit peu par d'autres. Donc
tu n'as pas vraiment bénéficié ni du secret de l'intérieur, d'être dans les backstage.
Pas du tout. Je suis allé voir le spectacle comme tout le monde. Ils m'ont gentiment invité après coup aux représentations. Et je les en ai félicités. Après coup, je pense pas que ça restera dans les annales comme le plus beau spectacle français. Mais c'était un bon show de M. Pokora +. Faut pas se voler la face. Et c'était un énorme succès. C'est-à-dire que vraiment, il a son public et c'était une énorme
chance. Et c'était quoi, du coup, toi, ton rôle, t'avais quitté Rentabili Web?
J'ai consacré à peu près un an et demi de ma vie.
Donc,
La production, c'est tout ce qui n'est pas artistique. Enfin, il y a bien sûr les choix artistiques, les choix des gens qui font l'artistique. Mais on a fait une levée de fonds à l'époque. Avec justement mon associé Léonard, mon ex-associé Léonard, et on a fait, on a développé le projet from scratch d'une idée qu'on a eue à Virgin Megastore. Alors après, si les gens écoutent d'autres interviews, peut-être ils auront d'autres versions de l'histoire, parce que parfois l'histoire elle peut être racontée d'une autre manière par certaines personnes.
Mais c'est fou parce que t'es quand même un psychopathe, parce que t'es parti d'un truc où tu faisais, alors notamment beaucoup de digital, des buzz pour faire des choses, un truc qui avait complètement rien à voir. T'avais même pas 30 ans à l'époque, t'avais quoi, 28 ans tu t'envoies sur un truc, voilà.
J'ai troqué en fait la raison pour le cœur. C'est-à-dire que moi j'ai vraiment une passion pour la musique et pour l'entertainment. J'ai vu une opportunité, je l'ai saisie. Et je regrette pas, parce que c'était une très très belle expérience. Je me suis fait un réseau incroyable, j'ai rencontré des gens super, et j'ai pris un petit chèque aussi au passage. Donc ça fait toujours. D'ailleurs, j'ai gagné plus d'argent avec Robin des Bois qu'avec toutes les startups dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Donc tous les projets dont je vous ai parlé. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié un épisode. On peut revenir en arrière sur les épisodes de la vie ou non?
On va revenir en arrière.
D'accord,
carrément.
Parce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé, dont tu m'avais parlé.
Oui, exactement. On est en quelle année juste là?
Robin des Bois, on doit être en 2010.
Ok, donc on s'est rencontrés à peu près à ce moment-là, je pense, peut-être un tout petit peu
après,
2011, je dirais, ou 2012, 2011. Et avec Alexandre Benaïm, par le biais de Ralph Feingold, deux de nos meilleurs amis communs, qu'on salue. Et du coup, on va revenir sur cet épisode, je sais de quoi tu parles, et je suis impatient de venir là-dessus, mais... comment t'as gagné de l'argent autant, je veux dire, là-dessus? Alors que le succès n'était pas encore évident. Donc, on t'a racheté tes parts et
complètement. Mais au moment où on me l'a racheté, on savait que ça allait être un succès. Parce que tous les ingrédients y étaient et que le projet faisait vraiment le buzz dans le milieu. Et on savait que le succès serait au rendez-vous. Aujourd'hui, ce ne serait plus le cas parce que sur 17 spectacles qui ont été lancés à la rentrée 2017, il y en a 16 qui ont perdu de l'argent. Mais on était dans une conjoncture beaucoup plus favorable. On sortait d'un 1789, Les Amants de la Bastille qui avait globalement très bien marché. Il y avait le vent en poupe sur ce genre de spectacle. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir.
Et du coup, tu vous clashez, on n'a pas le droit de rentrer dans les détails, mais ça marche plus, vous engueulez, vous trouvez un deal.
Exactement.
Tu négocies comme
c'est
un
moins simple que ça, mais ouais.
Mais c'est hyper dur, je veux dire, moralement pour toi aussi à l'époque.
C'est très dur, c'est très dur parce que c'est en plus, c'est pas juste un projet, c'est la passion. Ouais, c'est-à-dire que c'est pas juste un business que tu vends et puis on passe au suivant. C'est le rêve de ta vie, c'est le rêve depuis toujours, depuis que t'es enfant. Et finalement, on te l'enlève parce que ben, si tous les hommes sont égaux, certains sont plus égaux que d'autres. Ça, c'est dans George Orwell.
C'est quoi, t'es dégoûté de la vie, t'es dégoûté du
Non, moi je suis confiance. J'ai même pas 30 ans, je suis très optimiste. À ce moment-là, il m'est arrivé plein de super trucs en l'espace de quelques années et j'ai un petit avantage par rapport à tous ces gens-là, c'est que j'ai 20 ans de moins tout simplement et que c'était pas mon dernier projet, le dernier truc, le chant du cygne, c'était vraiment un projet, j'ai appris énormément, j'ai rencontré beaucoup de monde et c'était un épisode dans la série mais c'était pas le final.
T'arrives à prendre le recul quoi. À ce moment-là, déjà. D'accord. Alors oui, on va parler d'un...
C'est marrant que je zappe des épisodes comme ça, ouais.
Non, mais bon, attends, celui-là est un un grand moment de l'histoire de Stéphane Boucris. Alors, on va parler d'un restaurant à Neuilly. C'est bien ça? Non, c'était pas là, de ça dont tu voulais parler.
Ah non, je vais parler d'autre chose.
Ça, c'est après.
Et ça arrive au même moment, t'as raison. Ouais. On a omis deux épisodes alors.
Alors, ok. Je veux parler de ce restaurant
à
Neuilly.
Tout à fait.
Qui est. J'adore le petit gars du buzz. Moi, je pense que cet épisode va peut-être s'appeler le petit gars du buzz devenu grand, j'en sais rien, mais j'adore ce truc. Et le mec, t'as bien identifié, je sais pas, mais. Et donc, un endroit où tu vas de temps en temps et le mec galère un peu, c'est ça?
Ouais, j'étais même pas un client habitué, mais je vais dans ce restaurant avenue Charles de Gaulle à Neuilly et je tombe sur un type assez atypique, mais plutôt sympa, qui se met à pleurer et qui me dit voilà, mon restaurant marche pas comme j'aurais voulu. C'était un diner américain, un délicatessen américain. Il me dit ça marche pas vraiment comme j'aurais voulu. Et je dis bah très bien, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il m'avait reconnu parce qu'à cette époque-là, j'avais fait quelques médias et tout. Il me dit aide-moi avec le buzz, avec ton truc. Je dis mais moi j'y connais rien en restaurant, en restauration. Je peux vous aider si vous avez un site internet et encore. Mais restauration, j'y connais rien. Il me dit s'il te plaît, tu peux le faire pour moi et tout. Je t'offre un cheesecake en gros, trouve-moi une opération. Je dis si vous voulez, je peux regarder, je peux essayer, mais je vous promets rien. Et je lui dis apportez-moi le Parisien. On en revient toujours au Parisien. Et sur la couverture du Parisien, à ce moment-là, j'ai plus la date, mais avec ce que je vais vous dire, on peut le retrouver. On voit en pleine page du Parisien Dominique Strauss-Kahn menotté avec les mains en arrière, avec les deux types qui ont des cravates d'ailleurs assez bizarres, et qui l'amène à Rikers Island, l'île où il va être la prison, il va être arrêté pendant quelques jours. Et je vois DSK, donc Dominique Strauss-Kahn sur le truc. Et ça m'inspire pas beaucoup. Par rapport à la thématique, là, je lève la tête au ciel et je vois sur ces vitrines imprimées hamburger, pecan pie, hot dog, cheesecake, machin. Et je vois ça et je regarde le journal, je regarde la vitrine et à un moment, je vois hot dog DSK, hot dog DSK. Ça fait trois allers-retours et je me dis, tiens, c'est marrant. Il y avait cette histoire un petit peu grivoise avec ce qui se passait dans l'hôtel et je me suis dit, c'est marrant, si on lançait un hot dog DSK. Et ce sera, le mec me dit, mais je comprends pas quel rapport. Je dis, écoutez, vous êtes un délicatessen, DSK, ce sera le premier hot dog non coupable. Il me dit, mais quel rapport? Parce qu'on sait pas déjà s'il va être coupable et tout. Et là, je dis, non, mais le pain sera tellement dur que ce sera un hot dog non coupable qu'on pourra pas couper. Et donc, il dit, ok, mais DSK, mais quel rapport? Je dis, bah, il me dit, on peut pas faire ça.
C'est sûr pour le manger quand même.
Exactement. Et il me dit, mais ça veut dire quoi? Il y aura une saucisse dans le burger, dans le hot dog? Je fais, non, il y en aura deux. Pourquoi il y en aura deux? En fait, c'est DSK, ce serait le double saucisse kosher, à l'américaine, double saucisse kosher. Et il est assez fou pour me suivre dans cette idée. On a réalisé un clip vidéo façon McDo qu'on peut encore retrouver sur Internet. Et là, donc on a fait la même recette, communiqué de presse à certains médias qu'on connaissait, qui ont été relayés par d'autres. Et là, Fox News, CNN, Reuters, CCTV, qui est la télé nationale chinoise, des télés coréennes, israéliennes, Turc.
Presque encore plus gros buzz que.
À l'international, j'ai jamais fait ça. Alors, pour le Mailorama, le New York Times en avait parlé front page. Obama, d'ailleurs, l'avait noté. Là, pour le coup, on n'a jamais fait autant. À l'international, en fait, des pays qu'on connaissait même pas, on parlait de cette opération et le type a fait plus 600% de chiffre d'affaires le mois d'après. Ça a été l'explosion. Il a revendu, d'ailleurs, ça s'appelle même plus Rhodes comme ça s'appelait avant. Et ça a été un énorme succès, cette opération.
Tout ça pour un cheesecake.
Tout ça pour un hot dog. Ah oui, pour un cheesecake. Bon, enfin, oui, c'est vrai. Non, mais après, je crois que je l'ai facturé un petit peu parce que bon, c'est sympa, mais il en a beaucoup bénéficié. Et oui, mais donc voilà, ça, c'est l'épisode du DSK qui a été un énorme succès.
Alors,
le Parisien fait une pleine page.
Je vous invite vraiment à chercher un peu le hot dog DSK,
ouais, hot
sur
dog
Internet.
DSK sur YouTube.
Il y a des
Dailymotion,
pubs, mais d'une.
Trouvé,
C'est
assez marrant.
Ouais.
C'est assez marrant. Si on a le temps, après, juste d'oublier, je vais te dire, il faut qu'on parle d'une opération aussi qui tourne autour de James Bond.
Ouais.
Mais ça arrive un petit peu plus tard et on en parlera juste après. Et il y a un truc dont on a oublié de parler, c'est que pendant que j'étais chez RentabiliWeb, donc avant de ces services interactifs, pas forcément très attrayants, je m'ennuyais. Et comme quand on a la fibre entrepreneuriale, on a la bougeotte, je me disais, qu'est-ce que je peux faire? Et à ce moment-là, donc je fréquentais pas mal de gens du spectacle, des producteurs et autres. Et justement, Dov Attiré et Albert Cohen me disent, tu sais Stéphane, à l'époque ils étaient sur Le Roi Soleil, très gros succès, ils ont fait, je crois ils ont fait plus d'1 million de spectateurs, donc énorme succès. Ils me disent, tu sais, on a le Palais des Sports tous les soirs, 4000 places à peu près, on en vend 3000, ce qui est très bien, on est à 75% de remplissage, mais les 1000 nous restent sur les bras. Et si on les vendait 10, bah sur 100 représentations, ça fait 1 million de marge opérationnelle supplémentaire. Et donc, faudrait trouver un moyen de les vendre. Et j'ai dit, tiens, c'est marrant ça, en fait, il faudrait faire comme le kiosque de la Madeleine, où on vend les places discount ou ticket yes à New York, pour ceux qui nous écoutent de New York, et on pourrait les vendre sur Internet moins cher. Et comme ça, bah, tout le monde, ça arrangerait tout le monde. La salle serait remplie, donc pour les artistes, c'est plus sympa. Les producteurs, quoi qu'il arrive à 18h, ils savent ce qu'ils ont gagné, perdu, et que Fnac pourra pas faire pour eux. Et donc, on met ça en place. Et ça a été un énorme succès.
Un vrai
donc,
last
2 heures avant.com, un vrai last minute. Et là, j'étais associé avec mon ami Alexandre Benaïm, notamment,
d'accord,
justement, qui était une des personnes qui nous a mises en relation. Et donc, on a monté cette belle aventure. On était trois. Enfin, moi, j'étais pas du tout. J'étais part-time. Hein, j'étais chez RentabiliWeb. Ça, je m'en occupais un peu le soir et le week-end. Et on a monté cette belle aventure qui a remporté le prix de la meilleure innovation française en 2010 par la FEVAD. C'était un favori de l'innovation. Ça nous avait été remis par Jacques-Antoine Grandjean à l'époque de Vente Privée. Et ça a été un énorme succès.
On n'est pas loin de la vente privée d'ailleurs. Quand même.
On n'est pas loin de la vente privée. D'ailleurs, ils se sont un petit peu inspirés de ce qu'on a fait sur ce concept. Mais je m'étendrai pas là-dessus. Voilà, parce qu'on est rentré en discussion
c'est
avec eux à ce moment-là
ouais.
Et finalement, ils ont lancé un concept similaire. Mais bon, on va pas se comparer. C'est un géant et on était un nain. Donc cette aventure-là, on l'a revendue au bout d'un an, 1 an et demi. On a eu une boîte qui s'appelait Vimaville, qui avait levé beaucoup d'argent, qui cherchait à acquérir des bases, pareil. C'était la base de données qui les intéressait, plus que le concept. Ils ont tué le concept, ils ont pris la base, ils ont tué le site. Et voilà, ça s'est terminé. Et ça, c'était donc avant la comédie musicale Robin des Bois. Donc, après cette comédie musicale dont on a parlé tout à l'heure, j'ai une petite parenthèse venture à cette époque où j'ai monté un fonds d'investissement.
Ah,
j'ai monté
oui.
Le premier fonds de Media for Equity en France.
À l'Express.
L'Express Ventures, ça. Tout à fait.
Figure-toi qu'au même moment, moi, je travaillais sur un projet avec une boîte suédoise assez grosse.
Shipstead?
Non, en l'occurrence, qui fait du média.
Ils en ont fait après Shipstead.
Qui fait du Media for Equity, mais eux, en fait, l'idée était de canaliser plusieurs médias pour faire de l'equity. Donc, le Media for Equity, pour expliquer en deux mots, c'est que plutôt d'avoir un investisseur financier qui met du cash dans ta boîte, là, tu proposais à des startups d'investir chez elles, mais en échange d'investissement publicitaire, de pages de pub.
Pour un ticket beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que si c'était 100 000 euros de pub, c'est pas 100 000 euros brut déjà. Et l'idée, c'était qu'il soit beaucoup, beaucoup plus avantagé que s'il mettait 100 000 euros sur Google.
Donc, en gros, je reformule, l'idée, c'est que je dis, j'ai une boîte, une start-up, je donne 10% à l'Express et en échange, j'ai 400 000 euros de pub sur
tout leur support.
Site, appli.
Étudiant, côté maison, il y a beaucoup, beaucoup de support. Et en fait, cette idée, je l'ai eue avec Jean-Paul Baudecrou, qui est le président du groupe Énergie.
Super.
Et grand monsieur de la radio qui a créé le groupe Énergie.
Énorme.
Et vraiment, c'est un monument. Et il dit, c'est génial, c'est super. Il saute sur son fauteuil et il me donne quelques contacts au sein du groupe Énergie pour monter Énergie Ventures. Je lui dis, voilà, moi j'ai 3 copains entrepreneurs, on vous gère les dossiers, on vous les envoie, vous les calez quoi, on les qualifie, vous investissez, on récupère et on les mentore en gros et on s'assure que l'investissement rapporte quelque chose. Et nous, on est juste actionnaires, donc on touchera rien si les entreprises se vendent pas ou qu'il n'y a pas de plus-value. Il me dit génial, sauf qu'il me met entre les mains de certains directeurs juridiques et financiers qui, comme toujours, rendent le dossier impossible. Et donc, bon, bah, je me dis, il veut pas, tant pis, hein. J'ai été voir RTL, j'ai été voir TF1, j'ai été voir M6. Et au final, j'ai terminé dans ce groupe belge à l'époque. Maintenant, c'est rattaché à Altice.
C'était Rollarta, oui, en effet.
Rollarta, et maintenant, c'est Altice, Patrick Drahi. Et une dame qui est maintenant chez Lagardère, qui s'appelle Corinne Denis, qui a validé le concept, qui l'a fait valider
à
Rick Denolf. Et donc, on a monté cette aventure. Au final, on a pris 4 participations. Il y en a 2 qui sont encore en vie. Il y a une troisième, malheureusement, à qui il est arrivé quelque chose de complètement injuste, qui s'appelle Kitchen Trotter, qui a déposé le bilan, qui était, je crois, liquidé il y a quelques semaines. Il leur est arrivé un truc de dingue. On pourra le raconter si tu veux. Et les 2 autres boîtes qui marchent plutôt bien et qui sont en pleine forme, c'est Morning Croissant, qui est un copycat d'Airbnb, qui fonctionne très bien sur les professionnels, et c'est Short Edition, qui a fait une très belle levée de fonds il y a quelques mois, et sans jeu de mots, dont le parrain est Francis Ford Coppola, puisqu'il est actionnaire et client. Moi, j'étais à San Francisco l'été dernier dans son restaurant, et il a la machine Short Edition qui distribue automatiquement des histoires courtes.
Ah oui, très bien, je vois très bien.
Donc voilà, donc vous le verrez dans toutes les gares.
Et ton business avec eux dans ce truc, l'Express, tu fais quoi, toi? Tu cherches les startups dans lesquelles investir, mais t'es rémunéré en
écoutant. On faisait le sourcing, on était actionnaire de la boîte, on est toujours d'ailleurs, avec Eric Beneftali, Laurent Schwartz et Raphaël Labbé.
D'accord.
Et donc, l'idée, c'est on est actionnaire. Donc, le jour où l'une de ces 2 boîtes sera vendue des milliards, peut-être qu'on touchera quelque chose.
D'accord.
Mais c'est surtout par passion de transmettre, d'aider, d'ouvrir notre carnet d'adresses. Voilà. Alors après, j'ai eu un échange avec Patrick Drahi quand il a repris l'Express, parce qu'il y a eu 2-3 ans très compliqués au sein du groupe. Mmh. Beaucoup de gens se sont fait licencier. Et Patrick m'a fait comprendre qu'il ne souhaitait pas continuer avec ce projet. Mmh. Donc, on a arrêté le développement. On a encore Altice Media Ventures, je crois que ça s'appelle comme ça, ils l'ont renommé, de l'Express Ventures, qui existe.
D'accord.
C'est une société dans laquelle moi, je suis actionnaire. J'ai mes copains qui sont actionnaires dont je viens de parler. Et donc, c'est une belle structure, mais ça n'a pas vocation à croître parce que voilà, l'actionnaire aujourd'hui majoritaire n'a pas de velléité à développer finalement ce côté un peu start-up, ce qui est dommage, mais bon, c'est son point de vue et je le respecte. Il m'a dit les start-up, ça intéresse beaucoup plus mon homologue, je crois, que moi, il a dit à l'époque.
Ça en fait des projets quand même en quoi, 7-8 ans, là, t'en as envoyé.
Ouais, c'est vrai.
Assez grave.
C'est vrai, on a essayé d'aller vite et justement, juste après ça, je me suis associé avec Vincent Klingbeil, qui est un ami d'enfance, et Patrick Bunan, qui était un proche de Vincent. Et alors, pour faire l'histoire simple, on s'est associé dans ce qui est aujourd'hui Amétique. C'est-à-dire qu'on a créé beaucoup de structures. Mmh. Et après, on a tout fusionné, on a redispatché. Et en gros, on a créé le groupe qui s'appelle Amétix.
Qui préexistait avant.
Oui, en fait, Patrick avait créé une société qui s'appelait, il y a 14 ans, SBP, qui faisait de l'infra. Vincent et Patrick ont créé Amétix 1 an et demi avant que j'arrive. Moi, j'ai créé Going to Digital, qui s'occupait de la partie conseil, événements et tout. Et à un moment, Patrick a eu une sagesse incroyable. Il s'est dit, si chacun a une boîte séparée et qu'on n'est pas parfaitement aligné, ça marchera pas. Et il y aura de la frustration. Il a fait quelque chose, je sais pas si je l'aurais fait, sans doute pas, mais il a eu une intelligence incroyable. C'est la sagesse. Il a plus d'expérience que nous. Il a dit, on va fusionner tout et on va redispatcher pour que tout le monde, pour que les intérêts soient alignés, qu'il n'y ait pas de jalousie, qu'il n'y ait pas de frustration. Et il a eu parfaitement raison. Et donc on a créé, on a développé Amétix. À partir de ce moment-là, le truc a vraiment explosé. Ça a été un énorme succès. Et Amétix, ça fait x2, donc a fait 100% de croissance de chiffre d'affaires depuis 7 ans, 6 ans, 6, 7 ans.
Énorme.
Et aujourd'hui, c'est... Alors
Amétix, vous faites quoi? Raconte-moi en 2 mots.
Alors, Amétix, on est un dénicheur de talents du numérique, c'est-à-dire qu'on fait de l'assistance technique, on fait du recrutement et on fait du conseil en stratégie digitale. Ça, c'est ce qui nous fait vivre. À côté de ça, on fait beaucoup de choses super marrantes et on a un très gros événement qui s'appelle le concours du meilleur développeur de France, le MDF, qui rassemble 10 000 personnes, dont 2 000 développeurs, qui est le plus grand hackathon d'Europe. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai été invité par Bill Clinton l'an dernier à son bureau pour en parler parce qu'il veut développer le projet aux US. C'est un événement qui était présenté par Jean-Claude Van Damme il y a 2 ans.
Donc tu as passé un petit moment avec Bill Clinton.
Tout à fait. C'est quelqu'un de charmant et qui prend vraiment le temps. Et franchement, j'étais assez surpris.
Donc le meilleur dev de France, hein, ça fait partie des vrais gros succès que tu as apporté aussi à Amétix, je pense. Parce que en gros, on est dans un marché où donc sur Amétix, vous, entre autres, vous placez des consultants, des experts, des ingénieurs, donc sur des métiers que vous allez placer chez des clients, hein, si je dis pas de bêtises.
Tout à fait.
Et c'est des métiers où, en fait, on est plus qu'en plein emploi. C'est hyper compliqué de trouver des talents. C'est hyper compliqué de trouver même des non-talents, d'ailleurs juste des gens, parce que c'est le désert total. Le marché est tendu. On ne produit pas, entre guillemets, en France suffisamment, alors qu'on en produit plus qu'ailleurs d'ailleurs, d'ingénieurs et de développeurs chaque année, d'où les projets d'école 42, d'où des tas de projets, Epita, enfin voilà.
Dans d'autres pays pour en recruter, parce qu'il n'y en a pas assez aujourd'hui.
Je sais, je m'en fais piquer chez moi en Tunisie. Donc,
pas par nous.
Je sais pas. On va voir, on va vérifier. Non, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de boîtes qui font venir des étrangers en France pour les faire bosser, alors qu'ils pourraient les laisser dans leur pays d'ailleurs au final. Mais voilà. Et là-dessus, toi, t'as eu pas mal d'idées. Je vois aussi que t'es toujours à fond là-dessus, à proposer des vraies commissions, voyages, etc. Donc soyez amis avec Stéphane sur LinkedIn en particulier, parce qu'il va vous faire gagner beaucoup de choses. Il distribue plus de billets parce qu'il a plus le droit, mais
des billets d'avion.
Des billets d'avion, voilà, c'est toujours des billets. Et puis après, le meilleur dev de France aussi, qui te donne une super visibilité incroyable, parce que l'idée, c'est quand même les devs ont quand même cet ego qui est très bien, hein, mais de montrer entre leurs pairs qui sont meilleurs, et alors avoir ce concours où ils peuvent tous venir et se mesurer les uns les autres, c'est juste pour eux.
C'est marrant, juste pas, comme tu dis qu'ils ont un ego, c'est vrai qu'ils ont un ego.
Pas tous, mais
certains, c'est des divas, malheureusement, c'est pas tous une fois de plus. Et ça nous a donné une idée. On s'est dit comment on peut repérer les développeurs qui sont invisibles, qui sont pas sur LinkedIn, qui sont pas sur DoYouBuzz. Comment on pourrait faire? Et finalement, on s'est dit, bon, on a tous un bon fond de vanité. On va lancer un site qu'on a dû arrêter sous la demande qui s'appelait combienjemérite.com. Et sur ce site, un développeur envoyait son CV on leur a donné sa valeur sur le marché. Et donc, on a réussi à dénicher des gens qui étaient indénichables. On a reçu 5000 CV. On a recruté, je sais pas, 20 ou 30 personnes. Et en fait, on a eu des devs qu'on n'aurait jamais trouvé sinon, parce qu'ils étaient, c'est la population qu'on appelle les invisibles. Et ça a donné lieu à des scandales. Bon, BFM en a parlé, Libé en a parlé, mais les gens sont allés voir leur boss en disant, bah, selon les consultants d'Ametics, je vaux 45. Et aujourd'hui, je suis à 40. Donc, il faut qu'on parle. Et ça a été, voilà, un énorme succès, un énorme buzz. On a lancé dans la foulée aussi, après un an, de pizza.com. Ça existe encore, où les développeurs postulent. Ils choisissent leur pizza. Donc, t'as la Regina, l'Oriental, la 4 fromages. Et si tu es recruté chez Ametics, tu gagnes un an de pizza. Alors, le premier effet intéressant, c'est que ça fait du buzz, très bien, tout le monde en parle. Mais le deuxième effet, c'est que, imagine, dans une banque, à la Défense, le livreur de chez Domino's Pizza qui arrive, la pizza de la semaine 23 pour monsieur Jean Dupont, offerte par Ametics. Et alors, lui, il dit, bah, c'est pour moi, mais tout le monde autour se demande, mais c'est qui Ametics? Et ça fait un effet de gros sacking. Un petit peu, et les gens se disent, c'est quoi ce truc-là? Et ça fait énormément de bruit dans l'Anderno, et ça nous apporte beaucoup. Et donc, des opérations comme ça, on en a fait à peu près 200. On a fait le recrutement, on a annoncé le recrutement des 1000 premiers élèves de l'école 42. On en fait quasiment tous les mois. On a fait des clips vidéo que tu as vus avec Doc Gineco, Ariel Dombal, Castaldi, qui ont été des énormes succès, qui nous permettent de dénicher ces gens qui sont invisibles. Parce que la question qu'on se pose le matin, c'est pas comment je fais sur LinkedIn pour trouver un profil, parce que tout le monde fait la même chose. C'est comment je fais sans aller sur LinkedIn pour trouver les meilleurs, les intros. Et c'est pour ça que nos clients nous font confiance. C'est pour essayer d'aller là où les autres vont pas.
Et alors, sans donner tous tes secrets, t'as quelques petits tips là-dessus, conseils à donner aux gens qui nous écoutent, quitte à te voir t'en faire piquer quelques-uns, mais
pour trouver des développeurs.
Ouais.
Alors, c'est très compliqué, mais le meilleur moyen.
Parce que je le précise, mais il y a beaucoup de gens autour de moi ou qui me contactent. Alors, nous, déjà, même on galère, hein, chez Cosa Vostra, comme tout le monde. On finit par en trouver, on essaie d'avoir des super bureaux, d'avoir une belle culture d'entreprise, d'avoir plein de choses, des gens cool, etc. Mais c'est pas facile. On essaye de leur offrir des options, des choses où ils peuvent travailler à domicile, ils peuvent travailler, enfin, des choses qui font que on est aussi très compétitif dans ce qu'on propose. Mais le sourcing est très compliqué. Et il y a beaucoup de gens qui me contactent pour me poser cette question. Comment je trouve un CTO? Comment je cherche un?
Le meilleur moyen, c'est pas le seul, mais le meilleur moyen, ce serait, vous allez sur ametics.com et vous nous envoyez une demande, parce qu'on travaille uniquement au succès. C'est la minute promo. Hein. Tu m'as dit qu'il n'y a pas d'annonceur, il y en a maintenant. En gros, vous nous contactez, on est uniquement au succès. Et moi, je trouve que c'est un super métier de travailler au succès, parce que il n'y a personne qui peut nous dire, ben, j'ai payé, j'ai pas été content, puisque les gens, si on ne délivre pas, on n'en pas. On
donc
pas
là, tu fais de la chasse.
On a une partie recrutement, mais on a aussi une partie assistance technique. Si tu as un projet sur 3 mois et tu n'as pas envie de recruter 5 développeurs, on t'envoie en mission. un développeur ou un UX designer ou un chef de projet ou un data scientist qui va t'aider à réaliser tes projets. Et on a 400 collaborateurs chez Amethyxx. L'essentiel, ce sont des salariés qu'on peut t'envoyer en mission. Donc, c'est un groupe aujourd'hui qui est considérable. Si bien que, bon, déjà, avant toute chose, j'invite tout le monde à aller sur YouTube, à taper Amethyxx et à regarder plein de vidéos marrantes, et parce qu'on en sort quasiment tous les mois. Là, on va en faire une d'ailleurs dans un mois. Et cette belle aventure, elle a continué l'an dernier puisque on a été revendu au groupe La Poste via une filiale qui s'appelle DocaPost.
Qu'on connaît très bien, c'est un de nos clients.
Oui,
je l'ai dit,
ouais. tout à fait, Cosa Vostra. Et voilà, donc je salue d'ailleurs le président Olivier Vallée. Et en fait, on n'était pas spécialement vendeur et pas spécialement à l'écoute, mais on a été approché par une banque d'affaires à un moment où les taux d'intérêt étaient extrêmement bas et l'intérêt pour le secteur était extrêmement haut. Et on a eu beaucoup d'offres d'Américains, d'Anglais, d'Espagnols, des industriels, des boîtes de la Silicon Valley, avec des LOI, des choses sérieuses et une vingtaine de fonds. Tous les fonds quasiment français.
LOI, c'est la letter of intention, donc c'est quelque chose d'assez engageant quand même.
Voilà, et beaucoup de fonds, tous les fonds de la place de Paris qui voulaient rentrer chez nous avec un projet légèrement différent. Et dans tout ça, on a eu La Poste. Et on a avancé avec eux parce que Just était un client. On faisait, je crois, 1 million d'euros de chiffre d'affaires à l'époque. On en fait beaucoup plus maintenant. Et ce qui est marrant, parce qu'il y en a qui nous...
Vous faisiez 1 million au total?
Ah, non, 1 million de chiffre d'affaires avec La Poste.
D'accord.
À l'époque,
d'accord,
au moment de la vente. Oui. Au moment de la vente... Alors, j'ai pas le droit de donner les chiffres aujourd'hui, mais au moment de la vente, on devait être à je dirais, à 15-16 millions de chiffre d'affaires, sachant qu'on fait x2 chaque année. Bon, on peut imaginer. L'idée, c'est que au moment de la signature, c'est un mariage. C'est-à-dire qu'on sait jamais comment la personne en face va être. On se montre sous son plus beau jour, on voit la personne sous son plus beau jour. Elle se présente aussi du mieux qu'elle est, mais on sait jamais. Donc, on s'est tout promis. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ça fait 1 an et 1 mois et on se rend compte que on a été au-delà chacun des promesses qu'on avait faites. Eux, ils nous avaient dit, vous allez voir, on va vous présenter plein de monde en interne, en externe, nos clients, on va vous faire travailler. Et nous, on leur a dit, on va faire tel chiffre d'affaires. Et tout le monde a dépassé un petit peu ses objectifs. Il n'y a pas une semaine qui passe où on ne rencontre pas avec mes associés, des exécutifs du groupe La Poste qui ne nous font pas travailler. On a choisi cette offre parce que ils ne pouvaient pas nous cannibaliser alors qu'il y avait des grosses ESN internationales qui auraient pu nous cannibaliser.
L'ESN, c'est ce qu'on appelle une entreprise du secteur numérique, ce qu'on appelait avant les 16-2i, hein, c'est ça.
Voilà. Si on voit, il y a un groupe américain qui a racheté une belle boîte française, les orfèvres un petit peu du digital, et depuis qu'ils les ont rachetés, la boîte a perdu 50% de ses salariés et je pense 30% de sa valeur. Nous, en fait, depuis qu'on est là, on est un petit peu les trublions du groupe, on a notre identité, d'ailleurs c'est très important, ils respectent notre différence. D'ailleurs, on est dans les bureaux d'Amethyxx pendant qu'on fait l'interview. Je crois pas qu'il y a marqué quelque part ni La Poste ni DocaPost. On est un territoire d'outre-mer. C'est-à-dire qu'on rend des comptes une fois par mois, mais on est en full autonomie. Et ça se passe très bien. Et ils sont très respectueux de notre culture, de nos différences. Et on atteint nos chiffres, nos résultats, nos objectifs.
T'as encore le droit de faire un an de pizza.com, combien je mérite.com.
Plus que jamais. Ils comptent sur nous pour maintenir ça et pour peut-être partager avec eux certaines idées un petit peu futiles comme ça. Donc voilà, donc ça c'est la rencontre.
C'est bravo, parce que c'est quand même je veux dire, ça c'est vrai que c'est tombé un peu comme ça. Moi, nous, on vous voyait, on se croisait un peu Vivatech, on se croise à différents événements, on déjeune une fois de temps en temps ensemble, mais c'est un peu tombé comme ça là. What the fuck, c'est Amethyxx vendu comme ça. Et puis en effet, il y a ce côté, ces deux cultures ultra différentes. C'est-à-dire que vous êtes hyper pushy, adossé à une sorte de dinosaure. Donc c'est très intéressant ce que tu dis et cette cohabitation, cette colocation qui marche bien, c'est cool. Donc bravo.
C'est vrai. Et j'encourage d'ailleurs tous les gens à venir nous voir s'ils sont à l'écoute du marché, voilà, pour vendre. Puisque la Poste, c'est vraiment, moi je dis toujours au groupe, je dis servez-vous de nous comme ambassadeur, parce que nous on est très contents. Vraiment, on est super contents par rapport à ce qui a été fait. C'est vraiment, c'est des gens qui sont bienveillants.
Sachant que dans toutes ces aventures business et tout ça, t'as quand même ce truc où l'année dernière t'es venu me voir, tu m'as dit écoute Mathieu, Cosa Vostra quand même ça marche bien, t'es vendeur, je te dis non je suis pas du tout vendeur, avec des gens dont on a parlé dans cet épisode mais qu'on n'évoquera pas maintenant, et tu me dis ouais, tu vendrais pour combien, je dis non mais je vends pas, allez, vas-y donne-moi un prix, je te donne un prix un peu à la con. Et là, on fait 2-3 rendez-vous quand même derrière, quoi. Et là, je me dis qu'il est quand même bon, ce con, parce que, alors, il y a rien à donner, mais en plus, c'était hyper intéressant comme process, parce que, il y a eu ce truc où tu te dis, en fait, même à un très bon prix, moi, je me pose cette question de me dire, est-ce que je veux vendre, en fait? Tout ce que c'est peut-être trop tôt, c'est pas. Donc, en fait, je te remercie aussi pour ce truc, parce que c'était une bonne aventure, des bons échanges qu'on a eus. Ça m'a fait poser
me poser pas mal de questions sur ce qu'on construit, où on veut aller, pourquoi on le fait, etc. Mais c'est marrant, c'est vraiment des choses qui te caractérisent. Toujours assez business oriented, quoi.
C'est ça. Et on a pu mettre une fois de plus parce que il y a beaucoup de gens qui doivent se poser des questions. Mais est-ce qu'il a réussi à faire de l'argent avec tout ce buzz marketing depuis le départ de ce podcast? Bah, en fait, aujourd'hui, on en fait, mais on en fait au service du business. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait une opération à la con, c'est directement pour servir les intérêts de notre groupe. Et ça se transforme vraiment en chiffre d'affaires.
Donc, oui, plutôt t'as transformé quand même sur la vente
d'Amethyst. Le buzz en bise.
pas mal, voilà, le buzz en bise. Et sur la vente d'Amethyst, t'as quand même bien transformé, j'imagine, ces années de travail et d'expérience.
Et on garde un pied entrepreneur puisqu'on est investisseur à plusieurs égards, puisque bon, il y avait l'Express Ventures dont on a parlé, mais ça, c'est un peu en stand-by sur le process. On est partners d'un fonds qu'on a aidé à se lancer qui s'appelle Side Capital, qui est dirigé, voilà, de main de maître par Renaud Guilherme. D'accord. L'ancien cofondateur et président, l'ancien président de Vidressing.
Que vous avez cofondé.
Enfin, on était dès le départ. Je sais pas si D'accord. on peut vraiment dire cofondateur parce que le vrai fondateur, c'est Renaud Guilherme. En D'accord. tout cas, on est partners depuis le départ. C'est un fonds, qui investit en early stage.
T'en parles beaucoup, Side, hein, quoi.
On doit avoir, je sais pas, 13, 14 participations aujourd'hui. Alors, je vais faire très attention à mon vocabulaire, dont une qui a été revendue à un géant de la Silicon Valley l'année dernière pour un très très gros montant. Mm-hmm. Mais comme tout est sous NDA et tout, j'ai pas le droit de dire qui. Il y a eu des articles qui sont sortis là-dessus, mais en tout cas, une des boîtes a déjà été revendue à un très gros groupe de la Silicon Valley qui a été une énorme réussite. Et ça, c'est déjà une première grande satisfaction au bout de 2 ans quasiment. Et voilà, et les autres boîtes sont très prometteuses. Donc, on est super confiants dans ce fonds.
Avec Kerala, Ring, etc. Ça fait partie des fonds cool. On a eu Serena aussi, mais
Marc
Fourier. Ouais,
qui était mes professeurs à l'ESCP. Ouais,
d'accord, bah, au Master Innover Entreprendre. T'es passé par là, d'accord. Ouais. Quelle promo, du coup?
Bah, le MSIE, c'est Master Spécialisé Innover Entreprendre à l'ESCP. Promo. C'est une bonne question, je dirais 2007, je sais jamais.
D'accord, moi je suis prof là-bas depuis 2010 ou 2011, d'accord. Je savais pas. Ok, donc il y a beaucoup de succès, Thibaut de Wiff, là, je viens de là. Bref, petit aparté, excusez-nous. Très bien, Side Capital, bravo. Avant de finir, avant de boucler, de laisser tout le monde, j'ai plusieurs questions sur ton orga, toutes ces choses-là, ce que tu fais, comment tu animes ta vie. C'est juste avant tout ça, sur ta créativité, ton association d'idées, tes choses comme ça, comment t'organises tout ça? J'ai l'impression que tu poses la problématique. On parlait de ça sur le DSK, le double saucisse cachère. On parlait de ça sur combien je mérite sur un an de pizza. Tu dis, OK, c'est quoi ma problématique? Quelle est la problématique du type en face? T'as un truc, t'as une petite trame, un machin, une manière de procéder, ou c'est totalement instinctif?
Déjà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent des freins mentaux, en se disant, mais ça, non, ça, je peux pas le faire, ça non plus. Alors, en fait, je pense qu'il faut vraiment oser. Et moi, je regrette rien de ce dont on a parlé depuis le départ. Il y a des choses qui étaient un peu décalées, un peu limites, etc. Mais je regrette rien parce que j'en tire toujours des bonnes leçons. C'est Nelson Mandela qui disait, j'échoue jamais, en fait. Soit je gagne, soit j'apprends, mais dans aucun cas, j'échoue. Et, j'essaie de comprendre la problématique, j'essaie de trouver un angle décalé. Et j'essaie de trouver ce qui va attirer l'attention finalement et qui va voilà, c'était dans les premiers slogans d'Apple, ils disaient think different, c'est un petit peu ça, on va penser différemment. Parce que si pour vendre des sandwichs, on montre une nana qui mange juste un sandwich au poulet, ça a pas vraiment d'intérêt, tout le monde le fait. Il y a des grosses agences qui prennent très cher et qui le font très bien. Moi j'ai une amie qui s'appelle Bénédicte, qui est une artiste, qui est venue me voir il y a 2 ans, et voilà, je rebondis sur l'histoire dont je vais parler tout à l'heure. Elle est venue me voir peut-être il y a 2 ou 3 ans et elle a fait un album un peu grunge, genre underground. Elle a beaucoup de talent et c'est très compliqué quand on est artiste aujourd'hui de se lancer. Et elle m'a fait écouter son album. Alors moi, j'ai très peu d'expérience dans la musique et je dis, écoute, je sais pas, essaie d'envoyer ta maquette à des DA, etc. Elle a envoyé, elle me dit, ça a rien donné. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai besoin de tes idées de buzz pour que ça marche. Je sais pas, mais moi, des artistes, j'ai jamais fait de buzz pour les artistes. J'ai fait un peu l'histoire Robin des Bois, mais c'est de très loin, etc. Et elle me dit, trouve-moi une idée. Et il y a une chanson que j'écoute qui est pas mal, qui s'appelle Ocean, l'océan. Et ça me fait penser au prochain James Bond. C'était il y a peut-être 2-3 ans, c'était un an avant le dernier James Bond en gros. Et je lui dis, c'est la musique du prochain James Bond. Elle dit, oui, mais alors qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Je dis, tu vas l'envoyer à la MGM, Sony à Londres, qui gère les droits en gros pour James Bond, et propose-leur la musique, parce que je pense vraiment qu'il y a du potentiel. Elle envoie, 2 semaines après, elle me dit, bah écoute, ils me répondent pas, ils m'ont envoyé bouler. Et je dis, ça va quand même être la musique du prochain James Bond, avec ou sans leur accord. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Et là, on a fait un truc complètement marrant et déconnant et très limite légalement, mais qui était un énorme succès. On a tourné un clip vidéo sur les plages de Normandie en 4K avec des images de la chanteuse. On a tourné un teaser du prochain James Bond. On a pris des images de Daniel Craig qu'on a détouré d'autres films. Donc, on ne pouvait pas reconnaître le film dont il s'agissait avec en mettant en fond les paysages justement de Normandie, de la plage, un soir où il y avait du vent. Donc, un truc un peu typique. Et on a fait un teaser d'un James Bond en annonçant le James Bond avec la musique en fond. Et on a gravé ça sur un DVD, je crois, ou une clé USB. On l'a mis dans un coffret en marbre avec une balle de pistolet à l'intérieur avec marqué James Bond, un communiqué de presse titré en haut Sony Entertainment TriStar, à l'époque c'était Sony Columbia TriStar et MGM, et en annonçant aux journalistes la sortie du prochain James Bond qui devait s'appeler justement Ocean ou un truc comme ça. Et on l'a distribué à 100 journalistes, ça a dû coûter 5000 euros l'opération. Et là, il y a eu un buzz incroyable. Et je t'enverrai les liens sur Google, mais en gros, on a eu 200 parutions presse. Et moi, la consécration, ça a été le Los Angeles Times, qui est un petit peu le Parisien de Los Angeles, qui est le journal de référence du tout Hollywood. Et les gens se sont levés un matin avec en front page James Bond, a pretty convincing hoax. Le canular plutôt bien foutu, parce qu'ils se sont aperçus. Sony a fait un démenti officiel, un PR release.
Mais ils vous ont défoncé, ils n'ont pas porté plainte.
Alors, si c'était une entreprise commerciale qui avait fait ça, on se serait fait attaquer. Là, c'était une artiste sans structure qui portait le truc. Ça a été plus ou moins toléré. C'est comme si quelqu'un se déguise en Chewbacca et se met une vidéo sur YouTube. Je pense pas que Disney et George Lucas vont attaquer. Et là, c'est pareil. Donc, en fait, il faut aller au-delà de ce qu'on peut imaginer. Quand je lui ai dit on va faire le prochain teaser de James Bond, elle m'a dit mais je vois pas. En fait, il faut vraiment dépasser les freins. Il faut mesurer, bien sûr, les conséquences. Mais dans tous les cas, voilà. Moi, je pense qu'il faut oser. C'est tout con à dire, mais il faut le faire. Il y a quelques petites recettes dont j'ai pas forcément parlé pour qu'il y ait vraiment une caisse de résonance par rapport à cette idée. Mais surtout, faire des trucs marrants parce que le dernier jour de sa vie, il faut se souvenir qu'on a fait des trucs plutôt marrants. Mmh. C'est bien de faire du chiffre d'affaires, mais je pense que le dernier jour de sa vie, on se souviendra pas que si on a fait 10 millions ou 15 millions ou 18 millions cette année-là. Par contre, on se souviendra qu'on a fait une vidéo marrante à l'époque avec Doc Gynéco, qu'on a fait une opération où on donnait la valeur des gens sur Internet. Et ça a beaucoup plus d'importance en termes de patrimoine personnel. Alors, c'est bien de faire du chiffre et c'est très important d'avoir des KPI et d'avoir une entreprise pérenne. Mais c'est important de se marrer aussi. Et c'est ce que je dis, moi, pourquoi je suis bien chez Amétix. Les gens me disent, est-ce que tu vas partir et tout? Moi, je vais pas partir, je suis très bien. Et aujourd'hui, je fais ce que j'aime, en fait. C'est-à-dire que j'ai une totale liberté. Si j'ai envie de faire, je sais pas, une ânerie, bien sûr, au bénéfice d'Amétix, je pense que je le ferai, et voilà. Alors, je dis pas que, voilà, que ça va plaire à tout le monde, mais en tout cas, nous, ça nous plaît, on aime bien. Et la plupart du temps, il y a des retombées business, donc c'est intéressant.
Et dans tout ça, t'as vraiment digéré le fait que, finalement, tu peux te faire des ennemis, des politiques, des gens comme ça, ça fait partie du...
Et tu sais, quelques années après, ils s'en souviennent même plus, je les ai revus, la plupart des politiques qui m'ont critiqué, ou les présidents, franchement...
Tu leur rappelles pas, du coup, quand tu les
prends? Si, mais ça les fait rigoler. Ils étaient en fonction à l'époque, ils le sont plus maintenant, donc ils devaient dire certaines choses, je les comprends, je les pardonne.
Non, mais tu as croisé DSK?
J'ai croisé... Alors, DSK, je l'ai pas croisé officiellement, mais les autres dont j'ai parlé, j'en ai croisé la plupart, et ils en rigolent maintenant, parce que voilà, ils devaient dire ce qu'ils devaient dire, et moi, j'ai aucun souci par rapport à ça.
T'as jamais eu de condamnation sur toutes ces choses-là?
Non, j'ai eu assez de chance. Je suis passé un peu entre les mailles du filet. Je pense qu'il y en a qui ont beaucoup essayé, qui ont essayé. Mais non, j'ai pas eu de condamnation.
D'accord.
Et on a tué personne.
Non, c'est sûr, c'est sûr. Et puis tu t'es bien marré.
Ouais.
Et tu me fais bien marrer.
On s'est bien marré.
J'espère que
tu vas bien marrer. Et en plus, ça c'était les premiers épisodes du film. J'ai 34 ans et l'idée, c'est d'en vivre encore plein d'autres. Que ce soit en France ou ailleurs. Et voilà, on verra ce que l'avenir nous réserve. Et il y a le sport aussi, parce que je sais que t'es sportif.
Ouais.
On n'en a pas parlé. Mais bon, c'est peut-être moins intéressant pour le sujet du jour, mais j'adore courir et les meilleures idées viennent en courant. Tous les matins, 7h30, 8h30, je vais au CMG qui est juste en bas au rez-de-chaussée ici.
Ouais.
Et en fait, le sport, c'est salvateur. Le sport, c'est libérateur. En tout cas, pour moi, l'athlète, tout ce qui est la course, c'est pour ça que je me suis mis à faire des marathons. Il y a plein de très bonnes idées qui arrivent quand vous courez tout seul dans le bois. Déjà, c'est relaxant et c'est bon pour la santé, mais surtout, quand vous pensez à une idée, c'est juste génial parce qu'il n'y a personne pour vous embêter, il n'y a pas de téléphone, personne ne vous interrompt, et c'est là que généralement je peux avoir quelques bonnes idées.
D'accord, très bien. Ton regard, rapidement, c'est quoi tes horaires? Comment tu bosses comme un malade? Où tu t'arrives?
Non,
à...
pas plus que ça. La journée commence à 6h30, 6h20. Je pars de chez moi à 7h20, je fais sport à 7h30 jusqu'à 8h30, 8h45. Ou 8h50 si on fait un hammam en gros au sauna. Je suis au bureau et je lis 4 jours, 4 magazines, 4 journaux tous les matins qui sont USA Today, qui m'est livré à la maison, ouais. Le Wall Street Journal en ligne, parce que malheureusement, il ne l'imprime plus, Les Échos et Libération, qui est donné aussi à la salle de sport. C'est pas que j'aime particulièrement, mais bon, il est offert.
Et Le Parisien, non ?
Et Le Parisien, parfois, je le lis en ligne.
D'accord.
Je suis pas abonné. Le Parisien, c'est quand je vais faire une opération de com. Et chaque semaine, je lis Challenge et je lis Le Point, aussi, qui est un journal que j'aime beaucoup, avec la page tech qui est rédigée par un copain.
D'accord. Très bien. Et sinon, donc, et soir, tu finis pas si tard que ça, tu arrives à faire.
Alors, famille, ouais, alors, ma femme maintenant veut que je rentre à l'heure, donc j'essaie de rentrer pas trop tard. J'ai beaucoup, beaucoup d'autres choses à côté, puisque j'ai une famille à voir, j'ai des amis. En ce moment, je suis en train de passer un diplôme à Harvard sur les relations internationales,
d'accord.
Un certificat en géopolitique. Et ça demande beaucoup de temps. Je pensais pas, mais ça demande 8 à 12 heures par semaine. Donc, je me suis engagé là-dedans il y a deux semestres. Ça se passe plutôt bien.
Pourquoi ?
Mais par passion, en fait, c'est marrant parce qu'il y a un phénomène qui s'appelle le continuous learning, le lifelong ouais. learning. Et ça, j'y crois énormément. C'est-à-dire que je pense qu'on doit apprendre toute sa vie.
Ouais.
Et en fait, ce qui est marrant, c'est que je choisis les études que j'aurais aimé faire maintenant.
D'accord.
J'ai fait du business parce qu'il fallait faire du business, parce que ça m'a ouvert certaines portes. Mais j'adore la géopolitique, j'adore la politique. Et là, je m'intéresse à des choses que j'aurais aimé faire, en fait, et des diplômes que j'aurais aimé passer il y a 20
ans. Tout se fait en cours, en ligne.
Tout se fait en ligne ou en live conference, c'est-à-dire en retransmis direct. Et d'accord. comme Boston, les cours ont lieu de 3 à 5 heures l'après-midi, ça fait de 9 à 11 heures le soir, donc c'est parfait.
Super. OK. Bon, bah, très bien. Et t'as trouvé ça où? Sur Harvard ou sur?
Harvard, ça s'appelle Harvard Extension School, c'est l'école d'Harvard à distance.
Ça coûte cher?
Ça coûte le diplôme entre 12 et 15 000 dollars. Donc quand c'est même. Moins qu'un MBA, c'est ouais. 4 à 5 fois moins cher qu'un MBA là-bas.
D'accord, et c'est un diplôme Harvard
Et c'est un diplôme Harvard, ça donne pas accès à tout, mais c'est vachement bien, c'est les cours d'Harvard avec les profs qui sont là-bas, et voilà.
Super, bon écoute, top, j'ai passé un super moment, on s'est bien marré.
Moi aussi, plaisir partagé.
Très inspirant, très fun, no limites, moi c'est ce que j'adore chez toi. Donc voilà, pour tous ceux qui sont encore là, sur ce podcast, n'hésitez pas à suivre Stéphane sur alors les réseaux sociaux, l'ajouter potentiellement sur LinkedIn. Je crois que tu travailles beaucoup sur LinkedIn, hein. Plus que Twitter, plus qu'ailleurs. Éventuellement ton email, on le donne ou,
ouais, bien sûr, ouais. Pas de souci. Alors le mail pro, c'est stéphane.boukris boukris@ametix.com, et le perso, c'est stéphane.boukris en un seul mot @gmail.com.
voilà. Et donc vous pouvez écrire à Stéphane, il répond, il est toujours très réactif.
Et surtout, je passe avec mes associés 20% de mon temps à faire du pro bono, c'est-à-dire à aider gratuitement les autres, principalement les jeunes entrepreneurs. Donc si vous avez des idées, un projet, je vous recevrai avec plaisir. J'essaierai de vous ouvrir des portes et de vous mettre en contact. Et si le dossier est intéressant, on peut peut-être investir également. Donc et il y a une raison pour laquelle on fait ça, c'est que d'autres l'ont fait pour nous, avant nous. Donc c'est notre manière à nous de renvoyer la balle.
Et c'est pas que des paroles en l'air, parce que je sais que tu le fais, et puis j'aurai des feedbacks si tu m'as menti. Non, je sais que tu mens pas. Et voilà. Et puis bah pour tous ceux qui sont encore là, je le dis souvent, mais le meilleur moyen de promouvoir ce podcast, c'est que vous le partagiez, que vous vous abonniez sur iTunes en particulier, puis ailleurs. Et voilà, j'ai fait plusieurs fois des très bons scores dans le classement iTunes récemment. Je voulais vous remercier tous spécialement là-dessus. Je m'éclate vraiment grâce à des invités comme toi, Stéphane, grâce à vous qui nous écoutez. Donc continuez, vos feedbacks sont tous bienvenus, bons comme mauvais. Je préfère les bons évidemment, mais je prends les mauvais pour progresser. À bientôt sur Génération du Week.
Merci beaucoup.
Salut Stéphane.
Salut.
Merci d'avoir écouté Génération Do It Yourself. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur iTunes ou SoundCloud, à le noter et à en parler autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook ou LinkedIn en tapant Génération Do It Yourself ou Mathieu Stéphanie. Merci à Cosa Vostra pour la production de ce podcast. L'habillage musical est issu du morceau Night Owl de l'artiste Broke for Free.